Les Cascodeurs Podcast, épisode 234. Emmanuel Bernard à ce service, bientôt chez vous. Enregistré le 12 juin 2020.
Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 234 des Cascodeurs. Nous sommes le vendredi 12 juin, Arnaud derrière le micro, et aujourd'hui je suis accompagné d'Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour tout le monde.
Et de Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour tout le monde.
Bon, tout le monde va bien, tout le monde est prêt, c'est le mois de juin, il fait moche maintenant que le confinement est fini.
Ouais, bah oui, parce que sinon c'était pas drôle.
Enfin, sinon c'était pas drôle, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, on va
nous,
essayer quand même de mettre.
De pouvoir aller où tu veux s'il fait beau, franchement.
C'est ça. Au moins on a réglé le problème, tu vois. Les gens ont plus envie de partir dans leur maison de campagne et tout ça. Il fait moche. Voilà. Bon, allez, on va essayer de vous mettre un peu de soleil dans les yeux en vous parlant de plein de nouveautés de Java. Je suis pas sûr que ça marche, mais on va essayer. Ou dans les oreilles, ouais, c'est ça. Allez, on est parti avec les news du mois. On démarre avec les langages. Alors la grosse news du mois de juin, c'était la célébration des 25 ans de Java.
Déjà 25. Voire même du mois de mai, parce qu'en fait c'était fin mai.
Oui, c'était mois de mai en fait. Ouais, ça, c'est fin mai, hein, la date officielle. Donc il y a eu pas mal d'articles, pas mal de vidéoconférences aussi, avec pas mal d'acteurs qui sont réunis pour parler et expliquer ce qu'était pour eux les 25 ans de Java. Alors Audrey, j'hésite à te demander parce que t'étais pas né, mais Guillaume, les 25 ans.
J'adore, j'ai rien, j'ai 25 ans pour toujours, c'est magnifique, j'adore.
Écoute, les rides commencent à se faire sentir, j'ai commencé, genre Java 1.0.2 ou un truc comme ça en 99. Ouais. Et les applets, les machins, tout ça, c'était cool, quoi.
Ouais. Bah, pareil pour moi, on est de la même génération. Donc effectivement, moi, je suis sorti de la fac. On commençait à... Oui, c'est ça. <On a 30 rire> à la fac, on a commencé nos cours de programmation. Il y avait du C++, Camel, etc. Et du Java, qui était ce nouveau langage qui, justement, côté université, plaisait bien. Et on a commencé, bah, pareil, avec les applets. À ce moment-là, effectivement, j'ai dû commencer aussi en 1.0 quelque chose, ouais, les toutes premières. Non, 1.0, puisqu'après, il y a eu les changements de sécurité dans la 1.1, enfin, je me rappelle de trucs affreux. Donc, ouais, ça remonte. Et ouais, quasiment toute la carrière de fait là-dessus, puisque bon, même si j'ai touché à plein d'autres langages, Java reste le cœur de ma spécialité.
Et il y a un article pas mal, là, avec les 25... Greatest Java Apps, les 25 plus géniales.
Ah non, je me casse pas la tête à traduire les titres pour pas me faire enguirlander après, pour pas que tu utilises la traduction, hein, s'il te plaît.
Ouais, d'accord. Ouais. J'ai ouvert l'article et du coup, je le vois écrit en anglais et je vois plus la...
C'est les 25 meilleures apps de tous les temps écrites en Java. C'est tout, c'est voilà. Comme ça, c'est marre.
C'est très bien, parce que tu fais bien. Et bah, par exemple, Java est allé sur Mars, quand même, faut le dire.
C'est vrai.
Pour contrôler les petits robots, il y a du JavaFX pour visualiser les trajectoires, les objets spatiaux, tout ça. Oui. Plusieurs projets sur l'espace, je trouve ça assez génial. Et après, ils donnent aussi des exemples sur le traitement des données, donc le moteur de recherche de Wikipédia qu'utilise Lucene après Elasticsearch, ou l'avènement de Hadoop. Et puis aussi même pour le côté fun, Minecraft c'est fait en Java. Et aussi ça j'ai appris ça en lisant l'article, c'était Jitter, c'est l'espèce de Roomba version station spatiale en fait qui tournait en Java dans la station spatiale. Puis il y a plein d'autres choses, donc on parle des Jenkins, GraalVM, les IDE, IntelliJ et compagnie, ou Micronautes, là mon petit framework préféré pour faire microservice. Qui est mentionné d'ailleurs deux fois. Donc, SmartThings, c'est le truc de Samsung là pour l'IoT. Ils utilisent aussi ça. Donc c'est cool. C'est utilisé partout.
C'est ça. Il y a du Java partout. Bon, je reste un peu sur ma faim parce qu'ils ont cité Jenkins. Bon, effectivement, c'est une belle réalisation et je vais pas dire le contraire, travaillant dessus tous les jours. Mais ils auraient pu citer Maven, qui pour moi quand même a été ce qui a vraiment changé l'écosystème Java et changé, et fait ce que Java est aujourd'hui, hein, avec Maven Central, ça je trouve.
C'est
que
vrai que l'adoption d'un langage, elle passe aussi par les outils qui viennent alimenter son écosystème. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Maven, ça aurait été compliqué quand même.
Je pense que Maven a quand même été Ant au premier, bien sûr. Oublions pas Ant, hein, qui a été à l'origine le makefile du Java. Et qui était portable. Ça, c'était bien pour tous ceux qui faisaient du makefile à l'époque. Mais Maven a quand même changé la donne, je trouve, sur tout l'écosystème et cette capacité que derrière, ça a pris à partager les librairies, à créer les fondations open source, à créer toutes les communautés, Jakarta, etc., etc. Donc c'est ça, 25 ans de Java et je pense qu'on peut être fier de là où on en est et il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok, continuons donc sur les nouveautés Java, 25 ans, bon, on n'en est pas encore à la version 25, mais ça, au rythme actuel, ça va vite arriver. Donc par contre, la version 15, qui est prévue en septembre, est déjà donc en early access, là, courant juin. On va pas revenir dessus.
Pas grand chose, les... une petite chose, hein, dedans.
Ah, si, quand même, il y a deux, trois trucs, hein, quand même. Quoi, parce que, bon, alors.
En plein truc de sécurité, tout ça?
Non, il y a tout ce qu'on avait déjà abordé, donc, la Foreign Memory Access API, qui passe en deuxième incubateur, il y a la deuxième preview pour les records, il y a la deuxième preview du pattern matching pour Instance Off, il y a toujours ce travail dont on avait déjà parlé la dernière fois sur ZGC, qui est le garbage collector à faible latence, sur Shenandoah, qui est le garbage collector avec des faibles temps de pause, et sur les text blocks. Mais il y a surtout les seed classes qui apparaissent en preview. Donc les seed classes, si vous connaissez Kotlin, bah ça va être exactement la même chose. C'est des classes qui vont définir quelles classes vont pouvoir les étendre ou les implémenter. Donc là, en Java, on va se servir du mot-clé permit dans le cas, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans cette implémentation, c'est qu'en Kotlin, il faut déclarer les implémentations dans la seed classe. Et là, en Java, on peut le faire à l'extérieur en utilisant le mot-clé permit pour faire la référence vers les autres implémentation. Donc ça, c'est un pas de plus vers le pattern matching, puisque en fait, on a une JEP, la 375 à venir, qui nous permettra de faire du test patterns, et ça permettra de vérifier que quand on a par exemple un switch, eh ben, on a testé tous les cas possibles, puisqu'une seed class, elle déclare les classes qu'il implémente, donc on saura si on a testé tout ou pas. Et puis, il y a les event classes.
Tu veux dire les classes cachées, hein, pour le français.
Donc, les classes cachées. Voilà. C'est des classes qui vont pas pouvoir être utilisées directement par le bytecode d'une autre classe. Et donc, elles ont été pensées pour justement les frameworks qui génèrent beaucoup de classes au runtime, qui les utilisent directement par réflexion, mais qui n'ont pas forcément envie qu'elles soient découvrables par ailleurs dans le langage. Donc, alors c'est hyper intéressant. Je vous invite à vraiment aller lire la page sur cette JEP. Parce que il y a tout le détail justement de quel mécanisme est utilisé. Alors en fait, on va utiliser l'API lookup qui avait été introduite en Java 7 et elle va avoir une nouvelle méthode justement pour générer ces en fait, elle va générer des lookup objects qui derrière on voit sur les classes cachées, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant, donc je pense que ça va être un bon apport en fait pour justement pour tous les frameworks. Ça renforce la sécurité, ça devrait permettre d'alléger aussi parce que d'alléger nos applications parce que c'est des classes qui vont pouvoir être déchargées de manière un peu plus agressive. Donc l'idée c'est que les frameworks pourront générer autant qu'elles en ont besoin parce qu'elles vont pouvoir les gérer comme elles en ont besoin. Il y a aussi dans cette version ils annoncent la suppression de Nashorn. Donc Nashorn c'était le moteur JavaScript mais qui a jamais été beaucoup utilisé je crois. Et puis voilà, c'est essentiellement ça.
Ok, très bien. Donc pour les nouveautés de Java 15, donc à attendre pour septembre. On continue dans les nouveautés, cette fois dans les mises à jour et dans la roadmap de support des Java clients et notamment du support de Java 8. qui reste pour qu'ils puissent pas s'en débarrasser.
Ouais, alors c'est le support commercial et les updates qui sont étendus jusqu'en 2030, là où ils avaient annoncé 2025. Ils continuent aussi à mettre à jour. En fait, ils laissent à dispo les mises à jour pour les Java SE 8 qui sont utilisées à titre perso. Ils donneront un avertissement de 18 mois en fait avant de les virer. Il y a aussi, alors ce qui est assez surprenant, et il y a le support de Java FX dans Java SE 8 qui est étendu jusqu'en mars 2025. Donc, enfin, on avait cette discussion dans le Meetup Paris Jug justement qu'on a enregistré mardi. En fait, nous, on n'a pas l'impression que Java FX soit utilisé, mais en réalité, il y a plein de projets qui sont faits avec et des trucs assez intéressants, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vent. Et puis après, il y a une petite mention sur la réaffirmation du soutien et du support justement de Oracle sur OpenJFX, qui va être le...
L'implémentation Java FX open source WERT, quoi.
Exactement. Et une réaffirmation aussi, ça me paraissait absolument essentiel, que Swing et AWT restent des technocores Java SE.
Bah non, mais plus sérieusement, sans plaisanter, je veux dire, IntelliJ, c'est quand même du Swing, donc si
c'est pas
ils
faux.
Arrêtent Swing, on a un peu mal avec l'idée, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est bien qu'ils continuent Swing, tu vois.
Ok, on continue donc avec cette fois les internes et le projet Loom. Il y a tout un article qui explique ce que c'est, comment gérer donc les...
Ah, les Rainbow Loom, c'est des trucs avec les élastiques.
C'est ça, il passe trop de temps avec sa fille, avec ses filles.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une blague qui n'est pas accessible aux non-parents.
Ouais, c'est ça, mais... c'est un peu ça.
Les Rainbow Loom, c'est un peu vieux en plus.
C'est ça. State of Loom, un article qui explique justement donc ce que c'est que Loom, les notions de le virtual thread, c'est ça que je me trompe.
Ouais, ce qui est intéressant en fait, à la limite, vous voulez aller directement au milieu de l'article parce qu'il y a tout le blabla au début qui est un peu long à lire.
Pas du tout.
Mais après justement, il montre comment
il est pénible.
C'est l'introduction.
Et après quand j'ai vu les bouts de code, ah ça marche comme ça. Ben voilà, c'est ce que je voulais voir. Non, mais après, il te montre comment utiliser et lancer des threads virtuels. Et là, du coup, c'est pas mal expliqué. Donc, faut regarder surtout le milieu, c'est bien.
Je sais plus, Loom, quand est-ce qu'il doit atterrir? Je me rappelle plus. Quelqu'un se souvient?
Ah, je sais plus, j'ai plus la date. C'est
pas 15, ça doit être 16.
Ah non, ça va, oui, ça va être au moins 16. Tout
ouais, au moins 16, je me rappelle pas. Ah, bon.
Donc en tout cas là la remise à jour, parce qu'en fait ils ont essayé différentes approches, hein. Thread, ils se disaient oh, ben on va faire une classe Fiber, on va faire autre chose, alors qu'ils ont vraiment tout réussi à remettre sur Thread, qui est un concept que les gens connaissent bien, et du coup on utilisera ces threads virtuels de manière assez transparente, on pourra faire du bloquant qui est pas gratuit mais en tout cas qui coûte pas cher, et du coup c'est facile à utiliser pour les développeurs.
Que ouais, c'est ce qu'il dit.
Cette là est intéressante aussi, ouais. Avant les exemples de.
Ouais, toute la partie sur justement que, enfin, l'idée c'est de pouvoir ne plus se limiter sur les threads, puis avoir de pool de threads. Ouais. Et ce
en
genre de choses.
Tu veux, tu t'en fous.
Ça consomme plus, ce que ça consommait, notamment sur les interruptions, etc.
Faisait une allocation assez large, tandis que là, c'est plus le cas.
On passe alors après Loom, aucune transition avec les streams. Alors un article que j'avais déjà lu auparavant, je crois celui-là, où l'auteur explique comment et pourquoi il utilise les streams et qu'il vaut mieux utiliser les streams plutôt que les boucles for et autres du langage Java. Je suis assez partagé personnellement sur l'article lui-même. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Ce qu'il faut voir, enfin, les streams, souvent on en abuse pour des simples boucles for. Là, ouais. Ce qui est intéressant quand même dans l'article, c'est que c'est un cas assez complexe de boucles. Enfin, il nous montre pas les exemples de boucles for qu'il aurait eu avant, si tu veux. Il montre directement tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que tu te rends compte que les streams peuvent être quand même très efficaces. Parce que si tu dois faire des calculs des moyennes, des regroupements avec grouping by, ou je sais plus comment c'est le nom de la méthode, etc. En fait, tu t'aperçois que faire des accumulateurs, tout ça, tu t'aperçois que après tes boucles fortes deviennent un peu illisibles en fait. Alors qu'avec les streams, je trouve que c'est presque plus déclaratif comment tu veux organiser ton calcul et ton passage au travers de toutes tes structures de données. Mais encore une fois, c'est pas le cas des petites boucles fortes à la noix où t'as vraiment intérêt à utiliser des boucles fortes plutôt que d'utiliser des streams qui vont faire l'allocation, etc. et qui vont être beaucoup plus coûteux et plus lents finalement qu'une boucle forte. Mais pour des cas vraiment compliqués, avec des structures de données compliquées où tu dois itérer dessus et faire des calculs intermédiaires, des regroupements, tout ça, les streams, c'est vraiment top.
Ouais, je suis d'accord avec Guillaume. Je trouve ça beaucoup plus lisible, mais je sais que c'est assez personnel comme opinion. Il y a des gens à qui ça fait pas ça. Mais enfin, moi, je me retrouve plus facilement à avoir des streams qui s'enchaînent qu'à avoir des boucles ouais. dans tous les sens.
C'est un peu déclaratif des strings qui est sympa plutôt que le tu le fais manuellement dans une boucle forte. Mais c'est pareil, il faut être habitué à ces méthodes des streams. Quoi.
C'est plus standard. Enfin, c'est surtout que les streams après la PI est relativement. Enfin, c'est simple. Hein, c'est du fonctionnel. Enfin, alors bon, c'est ceux qui font du fonctionnel, Scala, etc. vont me taper dessus. Mais c'est vrai que c'est vachement plus accessible comme concept pour faire des traitements de masse justement sur un flux de données et pouvoir. Enfin, les keywords, il y en a pas 50 comme tu le disais. Enfin, voilà, les maps et autres. Enfin. À pas 36, ça rend le cheminement de traitement des données plus lisible quand on y est habitué. Après, je pense que c'est quand on y est habitué, et je suis d'accord qu'il faut pas en abuser, parce que voilà, les streams, ça peut valoir le coup, c'est très efficace si c'est bien utilisé. Faut d'ailleurs quand même faire attention, justement sur les streams, il y a beaucoup de c'est dommage, j'ai vu passer un article où ils mettaient en avant justement les risques aussi. D'utilisation des streams parce que les gens ont tendance à oublier justement le cheminement à travers le flux de données et donc de faire des opérations unitaires sur qui ont des effets de bord via les streams et donc qui vont créer des problèmes de performance ou de scalabilité sur tout. Mais voilà, donc en tout cas bon, je pense que c'est le titre qui est un peu c'est pourquoi utiliser JavaStream à la place des boucles. Bon, c'est un peu trompeur, je trouve. C'est voilà, il y a des cas où c'est racoleur, et voilà, c'est bon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des bons exemples. Terminons sur les langages avec une nouvelle JEP, la 386, qui est pour mettre Java, faire tourner Java nativement sur Alpine. Qui veut en parler. Donc Alpine, c'est quoi déjà?
Bah en fait c'est alors attends, j'ai peur du coup de mal définir le truc. C'est une distribution Linux qui est beaucoup utilisée pour les déploiements cloud dans les containers Docker, les images Docker.
C'est très bien. Oui.
Ok.
Qu'elle est légère. son but, c'est qu'elle est super légère. D'où le fait que c'est pas la libc classique, mais ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises, mais c'est pas la libc classique qui est dedans, mais d'autres.
C'est une musol, je sais pas comment on dit.
Jamais son nom. Voilà. Donc en gros, c'est un Linux, mais qui utilise pas les trucs vraiment trop standards pour que ça soit vraiment le plus petit possible. Et donc l'idée, c'est d'avoir Java qui tourne directement dessus sans avoir à rajouter une planquée de package et de machin qui rendent Alpine beaucoup moins utile que qu'il ne le lance.
Et puis qui enfin t'avais les problèmes de compatibilité binaire glibc. Et du coup là c'est moins compliqué quand toi tu veux créer des images Docker pour tes applications Java. C'était un petit peu tordu si tu voulais arriver à utiliser Alpine. Là ça va être beaucoup plus simple vu qu'on aura une version spéciale. Donc ça c'est plus simple à builder.
Perso, je reste un peu toujours méfiant d'Alpine ou Alpine parce que enfin j'ai vu aussi de par le boulot aussi pas mal de problèmes spécifiques à Alpine justement vu que il y a plein de trucs spécifiques dedans et c'est vrai que des fois donc notamment des choses côté stack réseau résolution des DNS ou ce genre de choses Ouais, bon, j'avoue que ça pique un peu. Hein. Ah ouais, c'est vachement plus léger, mais alors quand ça bug, ah ouais, mais comme c'est pas comme les autres, bah oui, obligatoirement il y a des petites astuces, des petits machins spécifiques. Bon, j'avoue que des fois, je me demande s'il faut vraiment aussi courir autant que ça sur la légèreté des images, quitte à se créer.
Les problèmes que j'ai eu, en fait, c'était des fois. Des choses qui étaient déjà compilées pour pas Alpine, donc pour Glibc, et que je voulais utiliser dans une image Alpine. Mmh. Après, c'est vrai que t'as les mêmes packages que tu récupères, donc t'arrives pas à trouver les bonnes... Donc là, c'était pas spécifique à Java, mais en tout cas, c'était assez problématique des fois quand tu voulais installer un binaire particulier. Ah oui, mince, ça va pas marcher sur mon Alpine, et après, tu te retrouves avec des images de centaines de mégas au lieu de...
Oui, c'est ça, c'est au final, ton Alpine, elle est plus slim du tout. Ouais. Donc,
ça, c'est plutôt bienvenu, ça. Et en fait, ce que j'ai pas tilté, donc, ce JEP fait partie quand même d'un projet... Attends, il est écrit projet Portola. Donc je sais pas si c'est le JEP pour le projet Portola ou Portola c'est le l'ombrelle.
Non. Ce JEP, Portola ça, j'ai pas c'est compris. Le projet qui est intégré dans la JEP.
C'est le projet qui est intégré dans la JEP. Ok.
Ouais.
Parce que du coup je me demandais pourquoi enfin ils distinguent les deux et qui contient qui. Ok.
Ok. Bon bah voilà pour les news des langages essentiellement Java ce mois-ci. Passons aux librairies. Alors on commence. Bon bah il est pas là, Manuel n'est pas là, Emmanuel n'est pas là et Antonio non plus. Nos experts Quarkus, la mec Quarkus 1.5 est sortie. Vous en retenez quoi de Quarkus 1.5 ?
Bah alors il y a une première grosse annonce qui est un fast jar packaging format, donc un format de packaging.
Alors justement, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Et c'est pas un Uber jar, c'est un quoi ? Je n'arrive pas à trouver fast jar.
Alors j'ai pas trouvé non plus c'est pour ça qu'on aurait eu on demandera à Emmanuel de faire un podcast. Mais j'ai pas trouvé le détail mais en fait ce que j'ai retenu par contre et qui est important je pense c'est que c'est une alternative au packaging jar classique par défaut qui va amener des temps de démarrage plus rapides. Alors j'aurais aimé comprendre comment mais voilà.
En fait, l'impression que j'avais c'était genre avant c'était des Uber jars avec des jars intégrés non pas forcément des shaded jars, fat jar que moi j'appelle fat jar. Et du coup, j'ai l'impression que fast jar, c'est ce que moi j'entends par fast jar, mais j'ai pas réussi à comprendre. Bref.
Et par contre, ce qui est à retenir, c'est que il y a de grandes chances que ce soit le format qui soit adapté par défaut pour des versions futures. Donc l'équipe est preneuse de retour, du coup, puisque évidemment, avant de l'adopter, il voudrait s'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde. Et puis, sinon, dans cette version, il y a pas mal de nouvelles extensions. Par exemple, il y a une extension de PicoClip pour la CLI. Donc, c'est un outil qui vous permet d'écrire des CLI plus glorifiés. Il y a le support de gRPC pour l'écriture des clients et des serveurs. Il y a une extension GraphQL qui implémente MicroProfile GraphQL. Il y a le support d'encore plus de services Amazon. Donc, il y a DynamoDB qui est une base NoSQL. Le Key Management Service, S3. De storage, le SES, l'email service, le notification service, le queue service, etc. Il y a le support de Hibernate REST WISP Panache. Je pense que le WISP Panache, Emmanuel, il tient beaucoup parce que je sais que c'est bien.
C'est ça.
Il y a le support des extensions Spring Cache, il y a l'amélioration du support du multitenant dans l'expansion Hibernate ORM qui était déjà en place. Et puis la grosse news, c'est que Quarkus devient officiellement supporté par Red Hat comme runtime pour le développement native cloud.
Donc c'est un vrai produit, quoi. C'est pas juste un produit open source.
C'est ça.
Tu as le support commercial derrière. Si
tu peux payer. T'as Emmanuel qui arrive chez toi directement pour fixer tes bugs quand ça marche pas.
Ouais.
C'est ça.
Emmanuel, tu peux me refaire la ceste. J'ai payé. Hein.
C'est ça. Ok. Bon. Effectivement, pas mal de news. Moi, c'est surtout la partie clic qui me botte bien. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a toujours pas la cross compilation pour GraalVM. ça existe toujours pas. On est obligé de compiler sur chaque cible. Ça, c'est toujours le truc un peu casse-pied. Mais bon, avec un bon Jenkins, on s'en sort. Mais c'est vrai que moi, ça me tente bien de faire du CLI avec du Java qui soit rapide et performant plutôt que de faire du Go. Parce que bon, Go, c'est rigolo 5 minutes. Mais c'est rigolo 5 minutes. donc allez, go Quarkus pour faire du CLI efficacement, ça me tente bien. Parler de GraalVM. GraalVM 20.1 est sorti avec un gros focus, entre autres, mais avec un gros focus, il y a eu des améliorations de perf, mais pas que.
Ouais, bah ouais, quand même beaucoup effectivement. Déjà, il y a beaucoup, meilleur support des coroutines Kotlin par compilateur. Vous avez également une amélioration. Alors, c'est le JDK 11 qui est basé sur GraalVM quand vous utilisez le fastlocking, qui est vachement plus performant maintenant. Il y a une amélioration de la génération des images natives avec le mécanisme, alors ils appellent ça le Saturated Type Flows. Ça va permettre d'accélérer l'analyse des classes pour savoir lesquelles doivent être présentes dans l'exécutable. Parce qu'en fait, ça, c'est la partie qui prend vraiment beaucoup de temps quand vous construisez votre image native. Alors, il n'est pas activé par défaut, donc il faut le faire manuellement avec l'option en ligne de commande. Mais a priori, les premiers tests montrent une amélioration de 25% en rapidité de génération d'images et de 25% également en consommation de mémoire sur la génération d'images. Là, l'exemple pris, c'est le PET Clinic. Un support de Spring qui continue à s'améliorer, la possibilité d'ajouter des handlers à l'exécutable, des signal handlers plus précisément. Donc en fait, on va pouvoir donner des handlers de sortie à l'application, ce qui va permettre par exemple que si vous êtes en train de la faire tourner dans Docker, elle ne va pas s'arrêter sur un contrôle C. C'est appréciable. Les fonctionnalités ECMAScript 2020 sont activées par défaut, et puis Python passe en 3.8.2, il y a aussi des améliorations de performance sur les primitives Python. On a pour l'essentiel.
Pas mal.
Par contre, vous avez suivi le projet Leiden, les images natives de JEP.
On en a parlé dans le dernier.
Ah, okay. C'est le dernier news. C'était le mois dernier que ça avait été annoncé.
Ok.
Ouais.
Du coup, moi, j'ai toujours du mal à voir l'overlap.
Je crois que tout le monde a du mal à voir son positionnement.
Je vais voir comment ça va se développer.
En fait, Emmanuel on en a parlé, décidément, il était très bien ce Paris Job virtuel de mardi pour les 25 ans.
Ouais.
En fait, Emmanuel expliquait que c'est parce que justement GraalVM ne respecte pas le TCK de Java que Leiden est proposé, parce que c'est pour permettre d'avoir une spec pour les native images qui respecte le TCK.
D'accord.
Donc après, il y a tout le débat de est-ce que c'est si grave que ça de respecter le TCK, etc. Mais,
Ok, on en revient au bon vieux TCK qui a déjà posé tellement de soucis dans le passé. D'accord, au moins il y a une raison.
D'accord. On ne juge pas les pratiques des gens, ils aiment se faire mal, c'est leur droit.
Du tout. Non, mais voilà, au moins il y a une raison, ok, on comprend mieux. Passons, donc remontons un peu d'un cran, là on est descendu très bas avec GraalVM, remontons au-dessus de la JVM avec JHipster qui a sorti la version...
Oh que non. Non, hein? On a encore du GraalVM.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, mes yeux sont à côté de la
crête. Spring, GraalVM, ils sont fatigués. Native.
C'est ça.
Alors il y a deux articles, parce qu'il y a un petit article de petites astuces pour la génération d'images natives. Ouais, qui était sympa. Il y a, voilà, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et puis ces petites astuces toutes bêtes comme le fait de, par exemple, ils recommandent l'exécution dans un container Docker pour avoir un build reproductible. Alors évidemment, vous le faites en dev, mais faut le savoir. La désactivation du fallback, moi je savais pas, mais si, mais en fait oui, ça paraît tout à fait logique. Si la compile AOT, donc ahead of time, se plante, ça va permettre d'empêcher l'image de René dans la JVM. Enfin, c'est-à-dire que du coup, le programme va s'exécuter classiquement dans la JVM. C'est pas ce que vous voulez si vous êtes en train de builder l'image native. Donc, vous désactivez le fallback. Le fait de pas différer les problèmes au runtime, parce que par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de compile ahead of time qui vont être différés au runtime. Donc là, c'est pareil. Si votre but, c'est de générer une image native, vous voulez les traiter au moment où ils apparaissent. Et le fait aussi d'aider la compilation ahead of time à résoudre tous les chemins possibles pour la réflexion en exécutant les tests unitaires et les tests d'intégration, etc. Donc, très bon article. Et le deuxième, effectivement, c'est l'annonce de Spring GraalVM native version 0.7.0. Donc il y a un gros travail qui est fait côté Spring pour justement améliorer le support de Spring dans GraalVM. Et donc là, la version 0.7.0, elle se base, la baseline, c'est un Spring Boot 2.3.0 et c'est GraalVM en 20.1, donc la version dont on vient de parler. Il y a le support de MongoDB dans Spring Data. Il y a l'amélioration du support de Kotlin, il y a un meilleur support du login aussi, il y a le support de Spring Cloud Function, et il y a la mise à dispo d'images Docker pour permettre justement d'avoir des builds reproductibles. Et ce qui est hyper intéressant, qui est la partie sur laquelle travaille beaucoup Sébastien Deleuze, c'est le nouveau mode Functional qui va permettre le support de la configuration fonctionnelle via Spring Foo. Qui est beaucoup plus simple en fait pour GraalVM parce que comme il n'y a pas de réflexion et que c'est la réflexion qui complique un peu la vie, on va dire, donc c'est un mode qui est plus simple pour Graal. Et la configuration aussi du plugin Maven Surefire pour exclure certains packages du tracing agent, par exemple tout ce qui est JUnit, Mockito, etc., tout ce qui va amener du bruit plutôt qu'autre chose. L'optimisation du temps de démarrage des applications Spring Boot fonctionnelles. Donc, ça passe par la suppression de toute une partie de l'infraspring qui est pas compatible avec les images natives. Donc, par exemple, c'est JNI proxy, plus des options pour virer du YAML, du XML, du JNX, des choses comme ça. Et, la prochaine version, la 0.8.0, Milestone, ça sera une version majeure. Donc, elle va amener un mode hybride qui va permettre d'utiliser à la fois le tracing agent GraalVM pour toute la partie infra de Spring et une config dynamique légère qui, elle, sera compilée au build pour les classes utilisateurs. Donc ça implique des modifications à venir dans Spring 5.3 parce que en fait il va falloir à l'heure actuelle ce qui se passe c'est qu'il y a des substitutions de fait dans la librairie Spring GraalVM pour qui sont pas maintenables en fait mais pour une compatibilité avec GraalVM. Donc l'idée c'est plutôt que on va faire évoluer les classes dans Spring, on va faire évoluer certaines choses de manière à ce que la compatibilité soit plus forte nativement. Il va y avoir également l'introduction d'un mécanisme de réduction du ClassPass pour les modes agents et hybrides, ce qui va permettre d'avoir, alors là, je trouve ça assez rigolo parce qu'on revient toujours sur les mêmes choses, c'est pour avoir un lazy loading des classes qui est plus proche de ce que fait la JVM. Il y aura toujours des expérimentations autour de la configuration sans réflexion et on va dire que de manière générale, l'idée elle est pas seulement d'apporter un support pour les nouvelles applications Spring Boot, mais elle va être aussi de donner plus de possibilités en termes de déploiement à celles existantes.
Pas mal. Pas mal, pas mal. Non, moi je suis admiratif, hein, franchement, sur tout le boulot qui est fait sur GraalVM et tout. Après, je sais qu'en tant que développeur, je sais pas, je suis pas encore. J'ai peur que ce soit trop jeune et que je passe un temps fou à faire fonctionner mes applis dessus, à tuner, je comprends que ceux qui ont des gros besoins en performance et en scalabilité,
Il y a un peu quand même des problèmes inhérents à Spring qui a toujours fait beaucoup de réflexions, etc.
Ah bah oui, du coup, c'est moins facile, c'est nativement, le challenge est plus gros que Quarkus.
C'est pour ça que Quarkus ou Micronaut, c'est pareil, tu vois, ils ont vraiment pensé le truc pour faire autant de choses possibles. AOT, ahead of time, à la compilation, sans pour autant que ça soit des compilations très très coûteuses, comparé à, GraalVM, après, les problèmes de build aussi, de temps de build des native images, ça reste, j'espère qu'ils arriveront à améliorer ça aussi, pour, en tout cas, la flexibilité, l'expérience développeur, ce qui est encore du boulot. Mais c'est vrai que GraalVM reste ça reste quelque chose de pas sec dans le sens où ça évolue encore beaucoup et du coup à chaque nouvelle version de GraalVM, bon même si ça s'améliore, faut faire un petit peu tout le boulot de. Donc bon, plus on automatise les choses, plus on rend les choses transparentes, comme le travail qui est fait dans Spring GraalVM, mieux c'est pour les développeurs de toute façon.
Mais bon, après, pour le coup, ils ont un tel écosystème à pouvoir bouger. Enfin, c'est énorme de réussir à faire ça. Ils ont déjà un écosystème énorme. Donc, s'ils peuvent ramener sur GraalVM cet écosystème existant, chapeau.
Ouais, ce serait pas mal, non?
Ah oui, non, franchement, je trouve ça génial. Donc remontons un petit peu, on continue sur le, au-dessus de, des VM, on va dire, et donc on continue cette fois avec J-Hipster, qui a une nouvelle release, la version 6.9.0, avec bon bah du, en gros, pas mal de refresh sur les, sur ce qui est embarqué, même si Spring Boot est qu'en 2.2. Point, je sais plus quoi, pas 7. La dernière, pas en 2.3, voilà, pas 7. Mais sinon avec pas mal d'améliorations, les réactives applications sur Neo4j, enfin, quelqu'un veut en parler plus en détail?
Non, il y a, c'est vrai que c'est une version qui comporte beaucoup de petites améliorations, donc on va pas toutes les lister, ça aurait pas d'intérêt.
Oui, non.
Moi, j'avais noté également, il y a le support de test container et de CircleCI 2.0.
Oui.
Voilà.
Ça. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient rajouté un support pour, comment ça s'appelle cette librairie, pour formater du Java. Ah ouais, Prettier.
Prettier, ouais.
Ouais, je suis moyennement fan, je sais pas, j'en sais rien, c'est bien, enfin au moins ça permet d'avoir un code
Go format quoi.
Ouais, c'est ça, c'est tout est fait automatiquement. Voilà, donc c'est pour les nouveautés de J-Hipster 6.9. Elastic, donc là on part sur du sur de l'infrastructure, enfin pas de l'infrastructure mais plutôt du middleware, mais Elastic.
Ouais.
Sachant que Elastic ça devient mais super gros, donc la 7.7.0 est sortie avec pas mal de nouveautés de changement. Moi ce qui me fait juste halluciner, parce que bon moi je l'utilise mais bon déjà je suis pas en 7.7 et j'utilise en gros Elastic, Kibana et vraiment peu de choses, mais quand on voit maintenant le tableau de bord de Kibana des versions actuelles qu'ils ont dans les démos avec les 50 applications sur la gauche,
c'est devenu un monstre. C'est Crew Dragon,
je pense que ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la NASA a moins d'onglets dans ses...
c'est impressionnant tout ce qu'ils ont embarqué dans la suite Elastic, enfin ELK et plus. Qui veut parler des nouveautés de la version 7.7?
Je peux les couvrir rapidement si tu veux.
Vas-y, allez.
En fait, le cœur, c'est une partie alerting qui a été repensée pour justement une intégration plus poussée avec Kibana. Il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé vraiment intéressants. Donc, il y a la recherche asynchrone, c'est la possibilité d'exécuter en arrière-plan des requêtes qui vont être piteuses. Donc, ça permet de surveiller l'évolution de ces requêtes, de recevoir des résultats partiels quand ils sont disponibles, par exemple. Il y a ce qu'ils appellent Elastic Observability, c'est l'ajout de cartes de service dans Elastic APM. Alors APM, c'est l'application de monitoring des performances applicatives. Mm-hmm. Et donc ces cartes, ce qui est vraiment vraiment chouette, c'est qu'elles vont être générées dynamiquement. Et elles permettent donc de visualiser les interactions entre services en incluant des indicateurs de perf qui sont générés aussi également. C'est vraiment très poussé. Et puis après, il y a une partie qui est peut-être un peu plus entreprise, mais malgré tout, qui est, je trouve, c'est intéressant d'un point de vue stratégique parce que c'est très différent de ce qui a été fait aujourd'hui, et en même temps, ça a beaucoup de sens, je trouve. Ce qu'ils appellent Workplace Search, c'est un moteur de recherche cross-platform pour les entreprises. C'est-à-dire que ils font le constat que les entreprises aujourd'hui ont leur documentation disséminée entre divers supports, notamment si vous utilisez des logiciels, des plateformes as a service pour certaines parties, des trucs type Zendesk ou des choses comme ça, pour la partie RH, des choses, des domaines de genre là. Et ben en fait vos documents ils vont être partagés entre vos Google, enfin votre suite Google ou votre suite Microsoft, plus ces logiciels là, et donc le Workplace Search vous permet de faire une recherche sur toutes ces briques en fait. Voilà.
C'est l'équivalent de, enfin, ce que faisait Google à l'époque avec, comment que ça s'appelait leur box qui, enfin, c'était une box hardware, Guillaume,
ouais,
tu te souviens?
La Google Appliance, un truc.
Ouais, c'est ça, hein.
Ouais.
Je me rappelle plus exactement le nom, c'est ça, mais,
effectivement,
t'achetais ton...
Oui, mais t'as moins de 30 ans, tu peux pas comprendre.
c'est ça. Et à l'époque, tu déployais dans ton entreprise, tu raquais dans ton, ta Google Appliance, et tu la configurais pour qu'il recherche partout, et donc tu avais ton Google interne qui recherchait partout sur ton SI, Et là, ils refont la même chose avec, et ce qui fait beaucoup de sens. Enfin, voilà.
Ouais, ça, ça a énormément
de
sens.
Enfin, il y a des données partout. Enfin, je pense que tous, surtout aujourd'hui, avec, le remote qui s'installe, avec nos entreprises distribuées, etc., on a de plus en plus de moyens de communiquer, on a de plus en plus de moyens de stocker les informations. On va pas dire que c'est la jungle, mais quand même. Et c'est difficile de retrouver les choses entre, qu'est-ce qui a été mis dans Confluence, qu'est-ce qui a été mis dans Google Docs, qu'est-ce qui a été mis partout. Enfin, c'est l'enfer. Hein. Donc, effectivement, ça se porte bien.
Voilà. Donc, et puis d'ailleurs, il y a une continuité puisque dans la partie Elastic Security, il y a une intégration avec des services type Okta, Microsoft 365, etc.
Donc bien joué à l'équipe et coucou à Cyril Leclerc sur la partie observabilité. Si je me souviens bien, c'est là qu'il officie maintenant. On passe à WebAssembly. J'ai lu l'article. Je me suis dit mais pourquoi faire du WebAssembly sur Java? C'est WASMR JNI. Donc une librairie Java pour faire du WebAssembly. Vas-y. Alors voilà. Qui m'explique l'intérêt de faire du WebAssembly sur du Java?
Tu peux faire du WebAssembly sur du Java.
Ben, c'est ça le but en soi. Non mais sérieusement, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se faire avec WebAssembly. Donc si par exemple tu as réussi à optimiser un truc aux petits oignons avec Rust et que tu le compiles en WebAssembly, eh ben tu pourras l'utiliser à partir de ton application Java.
Oui, ok, d'accord. Donc tu vas faire tes composants potentiellement sur un autre langage ou techno, tu vas
les intègres.
Ouais, d'accord.
Ouais, bon, tu prends ce compil en WebAssembly et hop, tu les fais tourner avec WASMR JNI. Et ils ont fait aussi d'autres intégrations avec d'autres langages, donc pour Python, je sais plus quoi.
Et c'est d'ailleurs pas la seule librairie pour faire du WebAssembly en Java. Hein, c'est,
D'accord.
Ouais, c'est une parmi. Mais ça a un univers assez foisonnant, donc c'est un peu comme les derniers frameworks JavaScript à la mode. Bah là, c'est les derniers trucs WebAssembly à la mode.
WebAssembly, c'est le nouveau JavaScript.
Voilà, c'est ça.
Le nouveau
bytecode, le nouveau bytecode multi-plateforme, multi-langage, write once, run everywhere, tout ça, quoi. Tu vois?
Ouais.
C'est ça.
Ça en nous remet 25 ans en arrière, mais
c'est right
je
on
sens
ce run
convaincu.
J'ai
le sentiment que non, mais il
je sais pas,
il
mais
croit pas,
non,
là.
Attends. Plus sérieusement, tu sais, on regarde les trucs GraalVM, etc. Mais ça aussi, c'est intéressant justement pour. Enfin, je pense à GraalVM pour les aspects cross-platform aussi. Là, justement, on va peut-être pouvoir avoir des choses qui vont être portable entre ton navigateur, mais aussi ton code serveur, par exemple. Donc, tu vas pouvoir, en théorie, mutualiser du code entre deux plateformes, tu vois. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, d'arriver à faire tourner du WebAssembly à partir de ton backend Java, par exemple.
Donc, ta fonction qui valide l'email de la personne que tu veux pas, de toute façon, il y ait des plus, des points, des machins, des trucs, et des accents dedans, parce que ça,
c'est par exemple,
tout le monde, tu vas enfin pouvoir l'écrire et la déployer à la fois dans JavaScript et dans le backend.
Par exemple.
D'accord. J'achète.
Okay. C'est pas mal.
Ok.
Bon, tu cherches un peu la merde, en vrai, là, mais,
Non, mais je comprends, mais je fais mon mauvais garçon. Ok, ça marche. Bon, merci. On passe à l'infrastructure. Allez. Sur l'infrastructure, on va quand même, de nos jours, au secours, on parle de Kubernetes tous les jours. Kubernetes, on va dire que c'est bien pour plein de choses, mais c'est pas simple. C'est pas toujours simple. On a retrouvé un article avec les 10 erreurs les plus fréquentes avec Kubernetes. Donc qu'est-ce qui est listé dedans? Bah pas mal de choses qui s'adressent un peu à tout le monde. Hein. C'est ça qui était intéressant. Je sais que moi je l'avais lu. Il est pas si récent. Enfin il a au moins quelques semaines je pense l'article.
C'était le 4 mai. C'est dans l'URL.
Merci Guillaume. Super. Pas mal d'erreurs classiques qu'on fait tous quand on débute ou pas avec Kubernetes, notamment toutes les notions de requêtes et de limites, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, est-ce qu'il faut en mettre des configurations de, donc les requests, c'est ce qu'on demande à ce qui est disponible quand on alloue
le
code, etc. Donc la mémoire, le CPU, etc. Donc je demande à avoir par défaut, je sais pas, 256 ou 512 mégas de mémoire et puis autant de CPU, donc je sais pas, un CPU ou un demi CPU, voilà. Et les limites, donc normalement j'irai jamais au-delà de tant de CPU et autant de mémoire. Donc est-ce qu'il faut le définir ou pas? Donc si vous le définissez pas, par défaut c'est Kubernetes qui va vous donner ce qu'il y a et puis là vous pourrez tout utiliser ce qu'il y a sur le cluster potentiellement, sachant que pour le coup il pourra vous tuer un petit peu n'importe quand il verra qu'il a plus de place et qu'il a plus de machin. Donc voilà. Donc pas mal de bonnes pratiques sur faire des limites, donc les limites de requêtes et les limites maximum au niveau requêtes et maximum, ainsi que les valeurs, des trucs idiots comme ne pas mettre une limite minimum de CPU à je sais plus ce que c'est que le minimum en CPU, c'est 1M ou je sais plus quoi. C'est vraiment, ça a pas de sens, donc mettez des valeurs qui soient logiques et adaptées, et puis surtout regardez par rapport à votre cluster. Tout ce qui est autour des liveness et readiness probes, j'apprécie beaucoup d'ailleurs dans Spring Boot 2.3, ils ont rajouté ça nativement, on peut configurer les endpoints et donc configurer ça directement avec Kubernetes. Donc on peut, il faut par contre que ça soit nativement et bien géré pour justement retourner correctement à Kubernetes si l'application elle est vivante ou pas et si elle est prête ou pas à servir les requêtes. C'est important si vous voulez que Kubernetes fasse le job de recycler vos containers et de les relancer comme il faut et tout ça. Donc c'est important d'avoir une bonne qualité de probe. Des load balancers pour tous les services HTTP, ça c'est juste un petit peu critique si vous voulez éviter d'avoir des outages en permanence, et donc mettre en place des load balancers, ça vous évitera pas mal de soucis sur la répartition de la charge et pour pouvoir gérer tout le cluster. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Après, bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a dit, je vais pas lister les 10. S'il y a les anti-affinities, pour les pods, ça j'avais bien aimé aussi, c'est un truc bête, mais par défaut dans Kubernetes, il va avoir tendance, si vous avez plusieurs pods, votre application, plusieurs containers, à les déployer sur les mêmes pods. Ce qui est idiot, parce que donc si vous perdez votre infrastructure, si vous perdez, donc vous avez tout intérêt à configurer par défaut l'affinité pour savoir si l'application, si vous avez je sais pas, donc 3 réplicas, 4 réplicas, etc., pour que ça se dispatche sur votre infrastructure, si vous avez une infrastructure distribuée, pour que ça soit dispatché sur l'ensemble de l'infrastructure, parce que sinon si tous vos containers tournent sur le même pod ou le même infra, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe en même temps, voilà. Je t'en avais vu d'autres, toi Guillaume, des choses, je sais plus, j'en ai oublié certainement.
Non, c'était bien, ouais. J'avais surtout retenu bien différencier liveness, readiness, probes.
Ouais.
Les anti-affinités, je connaissais pas, je savais pas comment ça fonctionnait. Du coup, là, c'était intéressant qu'ils montrent ça. Et puis, dans le premier point que tu avais dit aussi, là, pour éviter les fameux OOM kill, je sais pas comment on dit, kill.
Out of memory kill, oui.
Voilà. Du coup, c'est important de bien setter tes ressources, si tu veux avoir des ressources, et de mettre les mêmes en minimum et en max pour être sûr que ça te donne vraiment ça, et non pas te faire péter la gueule.
Il peut pas faire son job, hein. Le principe est simple. Si on lui dit pas de quoi on a besoin, faut pas s'étonner que le cluster fasse pas son job et qu'il soit capable de nous offrir les ressources qu'il faut et qu'il nous tue pas quand on veut pas. Donc, ça va. Ouais.
Donc voilà. C'est ces trois trucs là surtout que j'ai retenu. Ouais.
On continue sur Kubernetes. Notre ami Aurélie a fait ces dernières semaines.
Ouais. Un mois ou deux au moins. Elle enchaîne toutes les sketch notes là sur Kubernetes,
c'est ça.
De folie. Là. Elle est trop forte. Et du coup, il y a je commence à bavarder là. Donc c'est comprendre Kubernetes de manière visuelle. Donc elle a fait pour chaque concept dans Kubernetes,
c'est ça.
Que ce soit les pods, que ce soit n'importe quoi. Elle couvre tous les aspects de Kubernetes avec des sketch notes, donc ces dessins annotés qui expliquent comment ça fonctionne. Et elle les a tous compilés ensemble. dans une même enfin livre ou même publication, ouais. Si je puis dire, et qui est disponible là sur Gumroad et bah vous pouvez acheter ça au prix que vous voulez. Et ça couvre vraiment tout Kubernetes. Donc si vous voulez comprendre facilement tout un tas de concepts dans Kubernetes, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Je sais plus combien il y a de pages déjà, mais ça en fait 120 pages. 120 pages de
c'est
dessin.
Impressionnant.
C'est impressionnant. Bravo.
Un grand respect. C'est
et ça montre bien qu'elle connaît bien le sujet et que ce n'est pas une imposteuse dans la matière. Hein, parce que là,
Oh, la subtile référence à un talk de qualité de la demoiselle.
Voilà, ouais. C'est trop de la balle.
Il est très bien, ce talk. Allez le voir. Il est très, très bien.
Ouais. Trop bien. Elle est forte.
Si vous voulez, apprendre Kubernetes ou mieux comprendre Kubernetes, franchement, c'est une bonne manière de
très
faire.
Et
vous payez ce que vous voulez, voilà.
Ça, c'est toujours un peu plus sympa, je trouve, sous ce format.
Ça évite les gros bouquins rébarbatifs, voilà. Sachant que Kubernetes, au final, c'est comme beaucoup de choses, mais ils ont pas réinventé la roue, y a rien de vraiment neuf dans Kubernetes, les concepts, ils existent depuis des décennies, mais c'est juste qu'effectivement, il y a d'autres noms, il y a d'autres patterns, il y a d'autres moyens d'assembler les choses, avec des graphiques, je trouve qu'on retrouve vachement plus, la logique.
Et je trouve qu'encore, avec Kubernetes, il y a plein de fois à se plaindre, la doc, elle est de qualité.
Ah oui,
la doc, elle est franchement très bien.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des graphiques, ça aide toujours à visualiser les choses. C'est pas plus
c'est plus parlant, je trouve.
Ouais.
Ok. Passons au cloud. Au cloud. Le cloud.
C'est le cloud.
Passons au cloud. Guillaume, peut-être, surtout, Java 11 arrive dans les Google Cloud Functions. Sont les Google Cloud Functions?
C'est les functions, les functions as a service à la mode Google Cloud. Donc ça existe déjà depuis un petit moment, mais on pouvait écrire des fonctions en Python, en Go et en Node, mais il manquait encore Java. Donc on a pris la dernière version LTS officielle de Java, qui est Java 11. Donc c'est marrant parce que nous, dans le podcast, on couvre qu'est-ce qu'il y a dans Java 15 et tout, mais on n'est pas encore déjà qu'il y a encore plein d'entreprises qui font du Java 8.
Donc, oui, c'est ça.
Là, on a rajouté un nouveau runtime. Donc là, c'est en version bêta et la GA, General Availability, va arriver bientôt. Mais là, en mode bêta, tout le monde peut accéder aux fonctions Java 11. Donc, on peut écrire deux types de fonctions, des fonctions HTTP sans avoir besoin de gateway ou quoi que ce soit, qui sont accessibles par HTTP. Et également des fonctions qu'on appelle background, c'est-à-dire si vous avez des événements dans votre infrastructure cloud, par exemple, un nouveau message qui vient dans PubSub, un nouveau fichier dans un bucket quelque part, etc., vous pouvez être notifié et votre petit bout de code de votre petite fonction Java peut réagir à ces événements-là. Donc moi j'avais pas mal bossé là-dessus, aussi bien sur le lancement que sur l'API de base qu'on peut utiliser pour écrire ces fonctions Java. Donc ça fait un an, deux ans que je bosse là-dessus. Donc je suis content que ça sorte. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a travaillé avec les équipes, par exemple, de Spring Cloud et de Micronaut pour qu'ils puissent faire l'intégration. Donc en fait, quand on utilise, par exemple, Spring Cloud ou qu'on utilise Micronaut, vu qu'il y a cette intégration, on peut utiliser le modèle de programmation, par exemple, des contrôleurs de Micronaut pour écrire un contrôleur Micronaut, mais en fait qui va être tourné comme une fonction Java sur Google Cloud Functions. Ça, c'est plutôt sympa. L'autre aspect cool, c'est que derrière, avec cette API, il y a tout le système d'invocation des fonctions, qui fait que on n'est pas... Donc déjà, si on utilise un truc genre Micronaut ou Spring Cloud, c'est portable sur Spring Cloud et Micronaut, partout où ça peut tourner. Mais si on utilise l'API de base qu'on a développée, en fait, on a ce qu'on appelle un invoker qui permet de faire tourner les fonctions aussi bien localement sur sa machine pour pouvoir développer en local, tout simplement, ou même déployer cette fonction ailleurs, partout où vous pouvez faire tourner une JVM. Donc il y a l'article que j'ai écrit, qu'on a mis dans les show notes, si vous voulez en apprendre plus. Et je serais ravi d'avoir votre feedback là-dessus si vous testez. N'hésitez pas, ça m'intéresse.
Bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Donc, bonne nouveauté pour ceux qui veulent faire du Java dans le cloud directement. On y crut juste avant et tout est parti. C'est bien. C'est simple.
Sans loading, sans portabilité, tout ça. Yes.
Passons à la, alors, à un moment, on l'appelait la minute web. Je crois qu'on l'a appelé la demi-heure web au bout d'un moment. Je crois que c'est quand Audrey nous a rejoint.
Ouais, ça va, hein. Tu peux repartir si tu veux.
Après, il y a l'heure, loi, société et organisation.
Oui, bon, bah, ça va.
C'est vrai que, entre les deux.
Ouais, mon cœur, j'ai compris. Il va me falloir mon épisode à moi toute seule pour loi, société et organisation. Ça va. Je suis bien consciente qu'il y a un problème.
Le problème, c'est effectivement notre société. Mais bref, repassons au web déjà avant tout. Pas trop de choses. Hein, ce mois-ci, ça s'est quand même calmé. Alors, je sais pas si c'est lié au confinement. Il y a pas trop de news. Il y en a trois. Je te laisse les couvrir. Vas-y, Audrey.
Oui. Alors rapidement, il y a une version 2.0 de Snowpack. Alors en fait, Snowpack, c'est un système de build qui prend un parti un petit peu différent de ceux qui existent dans l'écosystème, puisque lui, il va prendre le parti de runner les packages directement, les packages NPM directement, les faire tourner dans le navigateur. L'idée, c'est que, il considère que les bundles, c'était uniquement nécessaire pour JavaScript, donc au développement, vous ne les avez plus, en fait, supprime les bundles et copie directement les fichiers. Donc là, la version 2.0, alors c'est dommage parce que l'article n'est pas hyper clair entre ce qui apparaît avec cette version 2.0 et ce qui est la philosophie du produit, mais globalement, vous avez un support pour TypeScript, JSX, les modules CSS et même plus, ça marche avec React, Vue, Svelte, toutes vos librairies favorites. Et puis il y a un create starter app dans la CLI, donc une petite aide pour démarrer avec les applications.
Mais ce qui a l'air, j'ai bien compris, c'est au niveau expérience développeur, pas de long reload, restart, etc. C'est très incremental.
Voilà.
C'est super rapide, quoi. On n'a pas à attendre. Ah oui, attends, est-ce qu'il a rebuildé mon truc? Non, il l'a déjà rebuildé, quoi.
Bah, en fait, l'idée, c'est qu'il build que les fichiers qui sont modifiés. Donc, si t'as un fichier que tu modifies jamais, il est pas touché, forcément. Et, tu buildes pas les modules, en dev. Donc, tu peux quand même les avoir en prod si tu le souhaites. Parce que tu peux en avoir besoin. Mais en dev, tu les auras pas. Et donc, tu es censé gagner du temps, pendant le dev. Après, je n'ai pas utilisé, donc, je vous expose la théorie, mais voilà. Ce sont les promesses sur le papier. Ensuite, un petit article qui explique comment CommonJS rend vos bundles plus gros. Alors, CommonJS, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, c'est un standard qui date de 2009, qui établit un petit peu la convention en usage pour l'import de modules, l'import et l'export des fonctionnalités des modules JavaScript. C'était à la base, ça avait été pensé pour être utilisé en dehors du navigateur, donc c'était plutôt pour des apps côté serveur. Et comme il n'y avait pas de standard de facto au début des années 2010, c'est devenu super populaire. Donc c'est pas du tout rare d'en croiser dans des projets purement front. Et le problème, c'est que comme c'était pensé pour du server side, ça n'a pas du tout été conçu pour optimiser la taille des bundles. Donc ça fait pas de tree-shaking, par exemple. C'est ce qui fait que ça rend vos bundles plus gros, ce qui est un problème, puisque c'est ça qui ralentit vos applications. Ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est que ça vous explique en détail comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça crée ce problème, mais la recommandation, c'est de toute façon d'utiliser plutôt le standard ES Modules, qui est le standard ECMAScript qui est apparu un petit peu plus tard. Une petite minute publicité qui est faite de notre plein gré. Nous n'avons pas été payés. Bien précisé. En fait, il y a l'équipe Ninja Squad qui a sorti son livre Deviens Ninja avec Vue.js. Et on vous l'a mis parce que, en fait, ils font un très très bon boulot, l'équipe Ninja Squad. Moi, j'avais leur bouquin Deviens Ninja avec Angular. Il m'a sauvé la vie, ce bouquin. Vous avez pas idée. Et ce qui est toujours sympa, c'est que avec l'équipe Ninja Squad, vous payez ce que vous voulez, et sur le prix que vous payez, vous pouvez choisir quelle partie va revenir. Donc cette fois, la contribution ira directement à l'équipe de Vue.js, donc ça peut aussi être un moyen de supporter votre librairie préférée.
Ouais.
Voilà. Et dans tous les cas, je suis assez confiante sur le contenu, sur la qualité du contenu. Voilà, vraiment, moi je vous dis, je pèse mes mots, ça m'avait sauvé la vie avec Angular. Je pense que ça peut sauver des vies avec Vue.js. Voilà pour moi.
Bon, bah merci beaucoup. Et effectivement, c'est toujours pratique d'avoir une bonne ressource en documentation, surtout sur Vue.js. J'en ai refait récemment. Eh ben, ça pique. Ça pique quand on fait pas régulièrement.
Ah oui, d'accord. Mais sinon, ça reste quand même vachement.
Non, c'est bien. Je veux dire, non, moi, c'est bien. Non, franchement, enfin, à côté d'Angular.
Ouais. Moi, si je dois faire du front.
Je pense que, voilà.
Je fais du Vue.js parce que je sais que je peux arriver à faire quelque chose sans avoir à comprendre tout un écosystème.
Sans doute.
Composants super complexes et tout.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, franchement, ça reste puissant, ouais. Ça reste super puissant et facile, enfin facile d'accès, mais c'est vrai que bon, voilà, faut en faire, ça évolue vite, faut en faire régulièrement, etc. Mais oui, à comparer, enfin personnellement, à titre personnel, comparé à mon expérience sur Angular, oui, non, c'est le jour et la nuit, enfin, c'est Angular m'a tué, clairement.
T'inquiète pas, il a tué beaucoup de gens.
c'est dommage parce que je trouve que c'est une très très bonne idée, un très bon framework au début, mais bon. Allez, bref. On passe à l'outillage. L'outil de l'épisode, on en a déjà parlé, une petite mise à jour, c'est le GitHub CLI qui passe en version 0.8. Donc c'est le remplaçant de l'ancien, je ne me rappelle plus son nom, il y avait déjà un CLI pour GitHub, ils en ont recommencé un nouveau là récemment qui s'appelle GH en ligne de commande, qui donc se binde plus par défaut derrière la commande Git comme pouvait faire l'ancien GitHub. Oui, c'était Hub qui s'appelait l'ancien. Et donc là, sur la version 0.8, ils ont rajouté quelques features que j'ai déjà oubliées sur la gestion des issues, des metadatas et je ne sais plus.
En fait, on peut rajouter des metadatas aux issues, aux pull requests directement au moment de leur création et on peut également fermer et réouvrir ces issues, ces pull requests en ligne de commande.
C'est ça.
Voilà, donc c'est pas une grosse mise à jour, mais en fait, c'est des fonctionnalités sympas.
Non, mais ça avance. Ça avance. Moi, je sais que j'utilise tous les jours ce genre de choses. Je fais tout en ligne de commande et j'utilise essentiellement GH pour créer les PR, les mettre à jour, etc.
Ouais.
C'est quand même très utile. Ok. Passons aux méthodologies. Un article sur la dette technique. Vas-y.
J'ai triché.
Oh là là,
j'ai même pas honte. Parce qu'en fait, tu le diras pas. En fait, le confinement a été très bénéfique en termes d'écriture d'articles de blog à Arnaud Lemaire, qui donc a écrit une petite série d'articles qui sont en plus, ils sont très bien parce qu'ils se lisent rapidement, ils sont très bien écrits et ils se lisent vite. Où il revient sur la dette technique, la complexité, l'entropie du logiciel. Alors, il refait notamment le point sur la différence entre complexité essentielle, c'est-à-dire celle qui est liée au métier, complexité obligatoire, celle qui est liée à la technique, et la fameuse complexité accidentelle. Il parle également, ça c'est un truc intéressant, parce que j'en avais encore jamais entendu parler, et pourtant c'est complètement évident, comment prendre en compte et traiter la charge cognitive qui est liée à la complexité accidentelle du code, justement. Et on l'a tous vécu, ça, je pense. Enfin, on a tous été sur des projets où, en fait, quand vous avez un junior qui arrive et que vous... Ah ouais, mais alors attends, parce qu'en fait, ça, pour le lancer, alors faut passer par là, puis alors faut pas oublier de désactiver ça, puis après faut que t'ailles modifier ça à la main. Mais regarde, ça marche tout seul. Ouais.
C'est pas que le junior, je te rassure, c'est pas que le junior du tout.
C'est vrai. Ouais, non, mais voilà, je prends les noms du junior, mais c'est vrai que tu peux être senior et arriver et t'en prendre plein la tronche aussi. Ça marche très bien. On l'a vécu. Il encourage aussi, et ça j'ai trouvé ça très bien, il a un article où il encourage à pas hésiter à communiquer sur la complexité accidentelle de ce projet justement pour pas se retrouver dans des situations intenables. Et c'est intéressant parce qu'il évoque en fait les conséquences de cette complexité accidentelle sur le manager, sur la manière dont lui bah, il doit gérer les impacts de ça. Et voilà, et donc il dit bah, voilà. Faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à la mettre sur la table, faut pas cacher le truc sous le tapis. C'est plus simple si tout le monde est au courant que c'est là et ça simplifie la vie à tout le monde en fait. Ça simplifie vos relations avec le management et voilà. Donc voilà, je crois qu'il y a 5 articles, ça se lit très vite et c'est très bien écrit et c'est toujours pas mal de se remettre ça en tête. Vous pouvez les partager avec vos collègues, ça leur fera sûrement du bien.
Très très bien. Donc merci pour ces articles. On passe à la sécurité. Alors, J'ai l'impression qu'il y a quand même une récurrence, hein, sécurité. À chaque fois, on parle de Zoom. Donc, il y a quand même un truc. Hein, je sais pas si vous lisez entre les lignes, mais bon. Oh. Je sais même plus. Donc Zoom, ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils sont sous les feux des projecteurs, surtout depuis le confinement, avec leur trous de sécurité qui ont été trouvés un peu partout, parce que ils ont, comme tout produit qui réussit, parce qu'ils ont eu effectivement plein de nouveaux clients pendant le confinement, ils sont passés sous le coup des projecteurs aussi, des personnes qui testent la sécurité, qui vérifient que ça marche bien et tout, et ils se sont fait complètement fusillé. Oups, c'est un trou de sécurité. Ouais. Bon, c'était pas la première fois. Hein. Ils y sont habitués. Ça fait déjà plus d'un an ou deux où ils ont régulièrement des trous de sécurité énormes, effarants. Enfin bon.
D'ailleurs, c'est pour ça que tu les aimes particulièrement.
Pour ça que je les utilise.
Je les adore.
C'est juste que j'ai juste fait mon opinion et j'ai pas envie de les utiliser parce que j'ai pas confiance.
Du coup, tu fais pas d'apéro Zoom, toi.
Non, pas d'apéro Zoom, c'est des apéros Google ou des apéros ce que tu veux, mais pas Zoom. Mais d'accord. Voilà. Non. Ils ont fait donc des travaux d'amélioration de la sécurité. C'est ils ont fait du feature freeze. Ils ont dit on arrête tout, on fait que de la sécu pendant 6 semaines ou je sais plus combien, et on va faire que ça. Donc là ils ont sorti des nouvelles versions de clients que vous êtes libre d'installer si vous voulez tester la sécurité de leur outil, qui sont disponibles. Et ils ont fait l'acquisition donc là récemment de Keybase. Alors Keybase, qu'est-ce que c'est que Keybase ? Qui utilise Keybase ? Vous utilisez Keybase ?
Alors ouais. Je l'ai depuis toujours quasiment, enfin depuis qu'ils sont c'est sortis ça. Presque. C'était le truc à avoir, enfin pour être cool, tu vois, fallait avoir Keybase.
C'est ça.
Et en fait, je l'ai jamais utilisé.
Vraiment. Voilà. Donc on en est au même point. Donc c'est quelque chose qui existe depuis de très très longues années, mais qui.
Ah mais moi sincèrement... je m'en sers, hein. C'est parce que vous êtes pas parano.
Mais qui est, mais qui est.
Des trucs comme ça secrets, tout ça. Avec Keybase. Ah c'est bien.
Ouais.
Et pourquoi t'as jamais rien partagé avec moi? Tu veux pas me dire?
Parce que je n'avais pas de secret.
Tu nous envoies pas de secrets.
Ça veut dire que t'as des secrets.
Tu nous envoies pas des références de compte en banque, ouais, c'est vrai.
D'accord. Pourquoi? Tu nous fais pas confiance?
Pourquoi? Après, Keybase pour l'historique, c'est juste une surcouche un peu plus user friendly à GPG. Donc qui permet d'encrypter vos messages. Vous avez votre clé privée, vous prêtez la publique aux copains que vous connaissez, et puis donc vous faites confiance, et donc vous êtes capable de vous échanger des messages encryptés avec GPG. Donc Keybase est une version qui est un peu GPG. Plus un peu plus end user friendly, avec une interface, une ligne de commande un peu plus simple que GPG et ses 50 millions d'options, une indexation des clés, un partage des clés qui est un peu plus aussi simplifié que les serveurs de clés GPG, voilà. Mais bon, en gros, c'est un GPG avancé. Et donc Zoom a racheté Keybase, qui effectivement a priori, à ce qu'on lit, a un peu de mal à trouver un vrai business, hein, parce que personne les utilise vraiment, en tout cas personne ne paye, donc comme Guillaume, moi je l'avais installé, mais j'ai jamais eu de use case. Enfin pour le coup au boulot on fait du vrai GPG avec des vrais partages de secrets, mais on utilise du GPG classique, on n'utilise pas Keybase, jamais eu d'utilisation de Keybase, et donc comme Zoom les a rachetés perso, j'ai fermé mon compte dans la minute où ça a été annoncé. Parce qu'avec Zoom, j'ai vraiment aucune confiance. Donc j'ai révoqué mes clés, etc. Et l'idée pour eux, a priori, c'est d'acheter surtout des experts en sécurité, alors ce qui doit pas être faux pour le coup, puisque les gens de Keybase, a priori, doivent s'y connaître relativement bien sur la partie GPG, encryptage, etc. Et donc ils rachètent non pas que le produit, donc c'est à mon avis que quand même le produit va mourir, parce que je pense pas qu'ils en aient au moins le moins d'intérêt sur le produit. A priori, ils achètent surtout les hommes pour pouvoir améliorer la qualité de leur logiciel Zoom en termes de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'a annoncé Zoom il y a quelques semaines. D'autres commentaires ?
Non.
Plus positifs que les miens ? Non.
Non. Non.
Bon, désolé. dans la sécurité, un autre point sur... Alors celui-là est plus compliqué. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, même en discutant avec un des anciens committeurs de, du projet NetBeans. Donc c'est un malware qui a infecté les projets NetBeans. Alors c'est très embêtant parce que c'est un vrai malware qui a infecté les projets NetBeans depuis plusieurs années, je crois 2018 de mémoire.
Ouais, août 2018 a priori.
Ouais, c'est ça, donc ça traîne. Alors ma compréhension...
Alors il y aurait 26 projets, hein. C'est ouais, pas non c'est plus ça. Un nombre de projets dingues qui seraient infectés, il y aurait 26 projets.
Au final, ça serait que peu de projets, parce que notamment, c'est les vieux projets, je sais pas quoi, qui sont qui utilisent Ant ou je sais pas quoi. Et donc, ça aurait permis d'injecter dans les projets en question développés via NetBeans un malware qui, je sais plus ce qu'il fait, il envoie...
c'est une sorte de backdoor qui va donner accès à beaucoup d'infos au niveau du code et de la machine du développeur. Dans les jars qui sont buildés avec NetBeans. Et alors après, ce qui est un peu bizarre dans cette histoire-là, c'est que NetBeans n'étant pas l'IDE le plus utilisé de la communauté, il y a une suspicion que ça a été développé pour viser directement certains projets comme Make ou MS Build ou Gradle. Donc bon, effectivement, c'est pas hyper clair. S'il y a des gens qui ont plus d'infos, n'hésitez pas à nous faire un podcast pour nous expliquer.
C'est l'équipe de sécurité de GitHub, je crois, qui l'a découvert, il me semble. Celui-là.
Je crois, oui. Ouais.
Donc, en tout cas, bien joué.
Ça s'appelle plus scanner, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc bien joué en tout cas les gars, et bon voilà, donc mais comme quoi même sur des choses sur lesquelles on s'attend pas, voilà, bah un malware sur l'IDE ça peut arriver donc
après c'est bien ce qu'ils disaient dans l'article, c'est que c'est quand même pas c'est que ça reste pas la manière la plus efficace d'attaquer du code.
Non, c'est pour ça
les failles de sécu qui sont exposées que d'aller
tout à fait
mettre une backdoor dans les builds.
Nous on le sait bien avec Jenkins, enfin voilà, si vous voulez attaquer des Jenkins, si vous réussissez à passer, vous pouvez faire beaucoup de dégâts sur la chaîne de CI/CD des gens, etc. Enfin voilà, il y a des moyens aussi très c'est pour ça qu'après voilà, on fait aussi très attention à ce qui est déployé sur Maven Central et tout ça, mais voilà. Bref, donc voilà, donc l'article vous donne quelques détails, mais effectivement pas tout sur la sécu. On va passer donc à loi, société, organisation. Donc là, une fois de plus, notre cher gouvernement, on ferait pas que. Hein,
attends, on va au-delà. Pour commencer.
Ah oui, c'est vrai. T'en as mis une boule. Oui, bonne nouvelle. Je l'avais oublié celle-là. Ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est vrai.
Mais bon, d'une manière générale, cette partie du podcast a tendance à ne pas s'alléger, malheureusement, du fait des activités.
Et je fais des efforts. Je vous jure que je fais des efforts, mais il me donne beaucoup de travail. Je ne m'en sors pas.
Ok. C'est ça.
Je vais demander une prime de surcharge d'ailleurs de travail au cascodeur, hein, parce que c'est plus possible les gars. Non.
C'est ça. Il y a vraiment trop d'actualité à suivre. Merci Cédric O. Hein, on te soutient beaucoup sur tous tes efforts, notamment en France, hein, pour enchaîner.
Cœur avec les doigts comme disent les jeunes.
Mais il y a pas que lui, hein, y a tous les autres. Alors commençons donc par la bonne nouvelle. Enfin, ce qu'on peut considérer comme une bonne nouvelle, c'est effectivement l'annonce de la Fondation Eclipse qui s'installe en Europe et plus précisément en Belgique, à Bruxelles, de mémoire. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque voilà, on a une grosse fondation qui historiquement était US, puis bon, la fondation Eclipse, c'est pas n'importe qui, enfin voilà, c'est reconnu par tous, qui a décidé donc pour plein de raisons, et surtout parce que sa communauté est essentiellement, enfin majoritairement aujourd'hui en Europe, de s'installer en Belgique, voilà. Des commentaires.
On attaque dans ce qui fait mal après.
Non, mais déjà des commentaires sur la bonne nouvelle. Allez, dites-moi que. Non, bon, c'est tout.
C'est
bon,
cool.
C'est cool.
Allez,
c'est
balance cool. La purée. Vas-y.
Oh, allez, ça y est. Donc on part.
Je fais comme le chef. Cool.
Bon, allez,
vas-y. On peut enchaîner.
C'est ça. Bon, allez. Alors, on part aux autres nouvelles. Donc là, on. Alors. Partons outre-Atlantique. On va commencer avec notre cher ami Donald.
Non, mais... Tu vas le voir parce qu'en plus il y a un enchaînement et tout. Je me suis déchirée.
Il y en a trop. Allez, vas-y. Yo. Donald Trump. On commence avec Donald Trump et Twitter et les réseaux sociaux parce que c'est un fan de Twitter. Il raconte une connerie au moins par jour, si ce n'est plus.
Ouais, allez, que c'est
encore passé.
Il s'est passé plein de choses très intéressantes parce qu'il y a des gros changements qui s'annoncent. Enfin, on va voir. Donc, ce qui se passe, remettons les choses dans le contexte, pour pouvoir maintenir les élections présidentielles qui arrivent en novembre 2020 dans les meilleures conditions sanitaires possibles, le gouverneur de Californie, qui est un démocrate, a annoncé qu'il réfléchissait à mettre en place le vote par correspondance. Il faut savoir que son État est un des plus touchés à l'heure actuelle et le pays parvient pas réellement à stopper la propagation du virus sur son territoire. Donc, voilà, ça paraît légitime de réfléchir à des alternatives à un déplacement au bureau de vote. Sauf que, ça fait pas tellement à Donald Trump. Donc, le 26 mai, il a tweeté que le vote par correspondance entraînerait un trucage des élections via des fraudes et des abus massifs, notamment en permettant à tout résident, même non inscrit sur les listes électorales, de recevoir un bulletin de vote, ce qui est bien évidemment faux. Twitter a alors modifié l'affichage des deux tweets, donc c'était deux tweets en total pour expliquer ça, en ajoutant une petite mention qui invitait à obtenir des faits sur justement les bulletins de vote par correspondance. Donc cette mention renvoyait, c'était un lien qui renvoyait sur une page qui regroupait des articles de nombreux médias nationaux, hein, il y avait vraiment pas mal de choses de sourcées, qui bien évidemment avaient fait leur travail journalistique, avaient vérifié avec des experts et qui contredisaient Trump en disant que le vote par correspondance n'était pas plus préjudiciable aux élections en termes de fraude que tout autre mode de vote. Donc évidemment, ça n'a pas plu à Trump, qui a accusé le réseau social de s'immiscer dans l'élection présidentielle, hein, au moins, et puis qui a continué, parce que ça y est, il était lancé, donc qui a enchaîné en accusant le réseau de censurer les conservateurs, que déjà ça durait depuis 2016, qu'ils avaient déjà fait un peu ça pendant la campagne présidentielle précédente, etc. Voilà, il faut savoir que si vous n'êtes pas familier avec la politique américaine, Trump ne s'entend pas très bien avec les géants de la tech, puisque la plupart sont basés en Californie ou à Seattle, la plupart sont démocrates, et donc c'est pas l'amour fou. Donc, comme ça l'a un petit peu énervé, le 28 mai, il a signé un décret pour abroger en fait la section 230 d'une loi qui date de 1996. C'est une loi qui à l'origine était destinée à la lutte contre la pédophilie et tout le monde d'Internet. Et le but, en abrogeant cette section, c'est de modifier le régime de responsabilité des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que si les réseaux sociaux modèrent les contenus qu'ils hébergent, ben, ils soient considérés comme des plateformes de médias, avec la responsabilité de tout ce qu'ils laissent publier sur leur espace, juridiquement parlant, et non plus comme des hébergeurs de manière classique. Alors, Twitter s'est pas démonté, puisque ce qui s'est passé, c'est que dans l'intervalle, vous avez probablement entendu parler de la mort de George Floyd, vous avez probablement entendu parler des manifestations, des affrontements qui ont lieu en protestation, en réaction à la mort de cet homme qui est décédé, qui est un afro-américain noir qui est décédé lors de son interpellation par un officier de police le 25 mai. Et ce qui s'est passé, c'est que donc dans la ville dont il est originaire et où a été commis l'homicide, à Minneapolis, les affrontements ont été assez musclés, il y a eu des incendies. Et donc Trump s'est un peu excité sur Twitter comme d'habitude, de manière très maladroite. Même maladroite ne convient même plus à ce niveau-là.
Donc il a, c'est ça, t'es trop gentille.
Ah ouais. Il a menacé et je cite, hein, je préférerais ne pas citer, mais je cite, le très faible maire de gauche s'il ne réagissait pas, en menaçant d'envoyer l'armée. Et il a notamment mis une phrase qui est celle qui a fait réagir le réseau, quand les pillages commencent, les tirs commencent. Et donc ce tweet a été masqué par Twitter au motif qu'il enfreint les règles relatives à la glorification de la violence. Ça c'est la partie, ça c'est le ping-pong entre Twitter et Trump. Après, de son côté, le New York Times a fait appel à des experts juridiques justement pour analyser ce que valait ce décret qu'il avait signé. Et il s'avère que ça vaut pas grand-chose puisqu'en fait il s'est octroyé le pouvoir de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire, d'après les experts juridiques consultés. Et d'ailleurs, ce texte a déjà été attaqué par une association, l'association Center for Democracy and Technology, qui donc a déposé plainte le 2 juin contre le texte. Donc maintenant, ça reste à voir. Alors, c'est assez intéressant parce que l'Union américaine des libertés civiles disait que, ironiquement, c'est Donald Trump qui est un grand bénéficiaire de cette section de 230, parce que si les plateformes étaient pas immunisées par la loi, elle prendrait pas le risque de les laisser tweeter tout ce qu'ils tweetent. Hein.
C'est pas faux.
C'est ça.
C'était très intéressant. Et là où les choses, en revanche, deviennent intéressantes, c'est que donc non content que Twitter ne soit pas laissé faire, puisque finalement l'article 230, en réalité, lui permettrait même de censurer Twitter. Trump beaucoup plus que ce qu'il le fait à l'heure actuelle en parfaite légalité. Et de son côté, Snapchat a lui décidé d'empêcher le compte de Donald Trump d'accéder à Discover. Alors Discover, c'est un espace qui permet de mettre en avant ses publications, mais cet espace, il est éditorialisé par les équipes de Snapchat. Et donc son CEO a déclaré qu'il refusait de promouvoir en Amérique des comptes liés à des personnes qui incitent à la violence raciale, qu'elles le fassent sur leur plateforme ou non. Donc en fait, il n'y a pas eu de vidéo inappropriée de Trump, de vidéo qui enfreigne les règles d'utilisation de Snapchat sur la plateforme, mais ils prennent le parti de ne pas le mettre en avant. Alors ça ne veut pas dire que son compte est bloqué, hein, son compte est toujours actif, il n'est pas censuré, pas bloqué ni rien, mais il ne peut pas bénéficier de cet outil Discover pour être mis en avant. Donc évidemment, ça a déjà fait réagir le directeur de campagne de Trump pour l'élection présidentielle de 2020, qui... dans une vidéo qui a été tournée sur Snapchat, affirmé que le réseau social tentait de truquer les élections 2020. Voilà. Alors tout ça, c'est assez intéressant parce que donc après, je vous ai mis deux autres articles avec ce paragraphe intitulé « Réseaux sociaux, plateformes ou médias », puisque Numérama s'est posé la question « Est-ce que Twitter a eu tort ou raison de ce qu'on appelle « fast-checker », donc le fait d'inciter les utilisateurs à aller consulter des sources vérifiées sur les propos qu'il a tenus, sur les propos de Donald Trump. Et c'est intéressant parce qu'ils font le parallèle avec une intervention récente de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Donc, quand l'application Stop Covid a été débattue, il y a eu beaucoup de débats un peu dans tous les sens, avec des arguments qui étaient parfois un petit peu surprenants, mais qui relèvent pas... Alors je cherche pas à défendre, hein, j'émets une hypothèse, mais je pense que c'était pas forcément dans une volonté de manipuler, mais c'était peut-être juste une mécompréhension du fonctionnement technique, je pense. Mais
sur les contacts, je suis d'accord.
Voilà, en fait ce qu'il a dit, c'est que l'application utiliserait le répertoire de contacts des utilisateurs, alors que l'application StopCovid n'est pas censée avoir accès à ces informations-là. Mais là, voilà, on peut imaginer. Laissons-lui le bénéfice du doute. Hein. Je sais absolument pas si c'était intentionné, délibéré ou pas. Mais comme le dit très très bien Numérama dans cet article, en fait, en s'engageant dans la modération des propos de Donald Trump, ben en fait, Twitter a mis le doigt dans un engrenage qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît, parce que
Mais les doigts pas qu'ici.
Twitter.
Non mais tu sais,
mais
Trump, avec ses... arrête,
Trump, je sais pas.
Trump, je sais pas. Je me rappelle avec la fameuse citation quand il disait il mettait sa main tu vois où il est très fort.
Oui, ça. Mais là tu parles de Trump, moi je parlais de Twitter.
Oui, mais
Twitter qui a mis le doigt dans l'engrenage. Après effectivement Trump, on a un vrai problème avec ses mains et pas que ses mains, mais
voilà.
Voilà. Donc effectivement, voilà, l'observation, c'est de dire, bah, si on modère les propos de Donald Trump, et ben dans ce cas-là, vu que l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, elle était retweetée également en intégralité, elle devrait être modérée également, puisque c'est un fait inexact. Donc ça va être compliqué pour eux, bien évidemment, de modérer tout ça. Et puis ça relève plein d'autres questions, parce que je vous en fais une liste rapide, celle qui était dans Numérama. Quelle fausse vérité mérite une contextualisation? Qui décide du poids social d'un débat et donc des mensonges qui lui sont liés? Est-ce qu'on va contextualiser les informations sur le système démocratique comme les élections, mais est-ce qu'on va faire l'impasse sur des sujets qui peuvent paraître moins fondamentaux comme une application mobile? À quel degré est-ce qu'on considère que la désinformation politique est trompeuse, etc. Donc c'était intéressant d'avoir cette analyse, parce qu'effectivement c'est un problème qui n'a pas de bonne réponse finalement. Et en plus, Twitter, là-dessus, a une position, et c'est là où je vous ai mis un deuxième article. Alors, par contre, faites attention, c'est un article payant, mais bon, je l'ai quand même mis pour la référence, c'est un article du Monde. La position de Twitter, elle est en complète opposition avec celle de Mark Zuckerberg, qui refuse que Facebook prenne position là-dessus. Et les deux positions sont critiquées, parce que ça soit par la société civile ou que ça soit en interne. C'est-à-dire que aussi bien Twitter a eu en interne des salariés qui ont dit mais non, il faut absolument pas prendre position, et aussi bien Facebook a des employés qui reprochent à Zuckerberg le fait de laisser Trump dire tout et n'importe quoi. Et qui ont... Enfin, ça va quand même jusqu'au directeur du design pour le fil d'info. Donc, on n'est pas sur un employé lambda, un développeur de n'importe quelle équipe, quoi. C'est des gens qui, normalement, qui sont dans des positions assez fortes dans la société. Et donc, certains menaceraient même de démissionner et ont fait des manifestations symboliques alors qu'ils étaient confinés chez eux, en soutien, justement, aux marches contre le racisme systémique aux États-Unis. Et tout ça est intéressant puisque ça nous amène directement à la loi Avia, dont on a déjà parlé.
C'est ça. La transition, je trouve, elle est très bien faite pour le coup. Là, on
Ah, mais c'est bossé, monsieur, c'est bossé.
C'est super bien travaillé, hein, parce que là, pour le coup, tu viens de tout nous dire sur les problèmes de la modération des contenus via les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, en France, qu'est-ce qu'on fait? Donc revenons en France, puisqu'effectivement, là, on parlait beaucoup des US. Mais donc, on a la loi Avia qui est rentrée en application, je ne sais plus trop quand, il n'y a pas le très longtemps.
Alors, elle n'est pas encore
la loi antienne. Elle n'est pas encore
voilà. Elle a, non, elle d'accord. a été adoptée le 13 mai. Donc, ouais. C'est effectivement le nom complet de cette loi à la base, c'est la loi contre les contenus haineux en ligne, ouais. Qui est souvent appelée loi haine, hein, finalement, parce qu'en...
c'est ça.
Pas très. Alors, si vous n'avez pas suivi, on en a déjà parlé dans les épisodes 214 et 225, pour vous la faire très très courte, c'est une loi dont l'objectif pour viser contre les contenus haineux en ligne est de remettre la responsabilité aux plateformes hébergeant les dits contenus, de décider de supprimer le contenu, donc c'est-à-dire qu'on ne passe plus par un juge pour décider de ce qui est un contenu haineux ou pas. On laisse à la plateforme le droit de juger de ce qui est contenu haineux ou pas. Et la plateforme a 24 heures pour supprimer les contenus qui posent problème, faute de quoi elle peut être condamnée à des amendes assez lourdes. Donc le problème avec ça, alors en plus, il y a eu un petit amendement de dernière minute tout à fait savoureux, c'est-à-dire que dans le cas des contenus antiterroristes, le délai est ramené à une heure. Ce qui est complètement dingue. Je sais pas
comment, ce qui est juste techniquement pas possible, mais c'est pas grave.
Voilà. Alors, le risque qui est dénoncé depuis le début avec une loi pareille, c'est que, en fait, les plateformes vont faire de la censure a priori et de la censure massive en s'appuyant sur des outils automatisés parce qu'ils vont pas vouloir prendre le risque de payer des amendes aussi folles. Donc, effectivement, la loi a été présentée aux députés, elle a été adoptée le 13 mai, mais le Conseil constitutionnel a été saisi par les sénateurs républicains parce que cette loi, elle pose vraiment quand même beaucoup de problèmes. Elle a même été signalée par l'ONU. On en est là quand même. La Quadrature du Net, de son côté, elle a adressé ses observations au Conseil constitutionnel le 26 mai, hein, pour l'orienter dans sa réflexion. Le problème étant à l'heure actuelle que depuis le vote de la loi, donc elle n'est pas encore en application, mais depuis le vote de la loi, il y a beaucoup de comptes et de contenus de militants et de militantes LGBTQI+, qui ont été bloqués, probablement dans une sorte de censure préventive de masse. Et ça vient illustrer parfaitement ce qu'on redoutait, puisque c'était le problème qui était énoncé dès le départ, c'est que une machine ne va pas être capable de faire la différence entre ce qui est du contenu haineux et ce qui est du contenu militant. Et notamment dans ces contenus, certains ont été censurés pour avoir utilisé les mots « green » ou « PD ». Et il faut savoir que ces mots sont utilisés par la communauté LGBTQI+, en tout cas par certains membres, pour renverser le stigma, c'est-à-dire se réapproprier l'injure pour en enlever le pouvoir. Et ça, c'est une pratique qui est très courante dans les combats des minorités opprimées. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les queers, par exemple, chez les noirs américains, chez les travailleurs du sexe. C'est donc quelque chose qui va en fait viser énormément de gens parmi toutes les personnes qui se servent des réseaux sociaux pour communiquer sur leurs combats militants. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant quand on aura le retour du Conseil constitutionnel, mais pour le moment, c'est pas tellement une bonne nouvelle. Donc, parlons maintenant de Hadopi.
Ça existe encore. Toujours là. Toujours là.
Ça existe encore. Malheureusement, ça existe encore. Donc, Adopi, vous connaissez certainement le système.
Ah si, hein, Adopi, c'est pas le chat de Tug d'ailleurs. Je crois qu'il l'appelle Adopi.
Je sais pas, mais ça serait pas étonnant. Donc Tug.
Ouais.
Donc il faut savoir que la Quadrature du Net et d'autres associations sont engagées dans une lutte contre Adopi depuis très longtemps, depuis sa création quasiment, qui remonte à 2008 si ma mémoire est bonne. Et le Conseil constitutionnel a répondu à une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été transmise le 12 février 2020. Et le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les pouvoirs que la loi a donné à la Adopi pour identifier les personnes qui partagent des œuvres sur Internet, comme par exemple le fait de pouvoir identifier les adresses IP connectées à divers flux BitTorrent en faisant, en ayant recours à Free, Bouygues, etc. Et donc, le Conseil constitutionnel a décidé que les pouvoirs prendront fin, les pouvoirs de la Adopi prendront fin à la fin de l'année, donc il ne pourra plus demander justement aux fournisseurs d'accès, voilà, j'ai retrouvé le mot, aux fournisseurs d'accès de donner, de communiquer en fait vos coordonnées personnelles sur la demande d'une adresse IP. L'article est intitulé « Une victoire de façade » puisque malgré tout, déjà, en fait, les pouvoirs prendront fin à la fin de l'année, mais pas l'existence d'Adopi. Ça, on en parlait dans l'épisode 223. Mais en fait, Adopi va être recyclé dans ce qui va être l'implémentation de la loi des upload filters. Et il va être intégré dans le nouveau projet sur la loi sur l'audiovisuel visuel qui comprend une réforme du CSA et en fait qui va plus précisément opérer une fusion entre le CSA et la Adopi dans le ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors ce qui est intéressant, donc c'est que le combat continue sur tout ce qui est riposte graduée, etc., qui est une autre partie du problème de Adopi. Mais ce qu'il faut espérer avec cette décision, c'est que ça va un petit peu freiner l'étendue des pouvoirs de justement cette future ARCOM à venir, puisque on le rappelle, dans le cadre de l'implémentation de la loi Upload Filter, dont la responsabilité, la surveillance échouerait à l'ARCOM justement, vous pouvez être tout contenu qui pourrait enfreindre le droit d'auteur, mais de manière un peu délirante et un peu abusive, serait censuré immédiatement. Et ça, ce sera le job de l'ARCOM. Donc, il faut espérer que ça va un petit peu montrer la voie pour l'implémentation de ce projet, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans des trucs aussi délirants, mais j'y crois pas du tout. Je pense que ça c'est.
De quoi? Les personnes qui nous convertent sont tout à fait responsables et réfléchies, tu te doutes bien. Donc il y a aucun risque là-dessus.
Donc pour ceux qui veulent rigoler, vous allez sur Mediapart et vous regardez ce qu'il y avait derrière la loi Avia et pourquoi elle a été votée, et là vous allez vraiment vous marrer, je vous jure. Maintenant parlons de stop Covid.
Passons à la santé, voilà. Donc la santé, Covid, notre cher ami qui est avec nous depuis quelques mois et qui nous pourrit bien la vie. Donc
voilà.
Il y a une application qui a été prévue, lancée donc la semaine dernière, si je me souviens bien,
le 2 juin,
pour tracer. Donc l'idée de base, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais c'est de tracer les relations entre les gens dès que quelqu'un a été reconnu comme positif, donc de manière à pouvoir prévenir les personnes avec qui il a été en contact, donc pendant un certain temps, une certaine proximité, etc., pour leur dire, bah attention, vous avez été en contact avec quelqu'un de malade, donc prenez les précautions nécessaires pour éviter de transmettre la maladie si au cas où vous l'auriez attrapé. C'est ça?
Sortez couvert.
C'est exactement ça.
C'est ça, c'est sortez couvert version électronique avec un téléphone. Voilà.
Voilà. Et donc la CNIL a validé l'application, même si elle reste l'efficacité sanitaire de la dite application reste complètement incertaine. Elle l'a validée parce qu'elle a constaté qu'une partie de ses observations et de ses demandes avaient été entendues. Par contre, elle aurait quand même préféré le recours à une solution de maison plutôt qu'au captcha Google pour l'authentification. Et puis elle demande aussi l'accès à l'intégralité du code source, ce qui n'est a priori toujours pas le cas. Il y aurait des parties du code qui sont complètement inaccessibles. Puis bon, de toute façon, quand ils ont mis le code source en ligne, ils ont commencé par balancer un gros zip. Je crois,
un targz,
un gros zip dans GitLab, dans GitLab, sur GitLab.
Ouais, pour stocker un targz, super.
Voilà. Et en plus, il y a eu des questions posées où bah, le honneur du projet a fermé les discussions sans répondre, sans rien. Enfin, ils n'ont pas l'air bien à l'aise avec le concept d'open source, en fait, les gens.
Ils l'ont ouvert. Après, je pense que leur position, c'est là où, pour le coup, enfin, je vais surtout pas blâmer les développeurs et ceux qui sont en charge de ça, parce que je pense qu'ils n'ont pas un job facile et une mission facile non plus. Mais effectivement, ça n'a pas été développé en open source, c'est évident. C'est développé derrière quatre murs, certainement un bunker d'ailleurs, et ils poussent ce qu'ils peuvent, et donc effectivement ils s'embêtent pas, ils font un gros zip de leur code sur lequel ils retirent des trucs qui sont pas propres, qui sont pas machinés, etc., et ils mettent ça en ligne pour dire ah mais au moins c'est le code est lisible. Mais bon, c'est vrai que j'imagine que l'exercice n'est pas simple, et effectivement ils ont ouvert l'issue tracker de GitLab. Ils essayent de répondre à certaines questions, à certains retours, notamment quand il y a eu la phase de revue de code, mais c'est pas très, le problème c'est qu'il y a pas la transparence, et ça peut pas se faire en toute transparence, donc ils sont même eux embêtés, et on voyait encore régulièrement des incohérences entre leurs réponses, entre plusieurs personnes de leur équipe qui répondent des choses différentes, comme là récemment, je sais plus si tu l'as mis dans les tout derniers liens, peut-être pas, mais là le dernier truc qu'on a découvert, c'est que a priori ils peuvent tracer les IP, enfin ils sont obligés de tracer les IP des gens via le front-end parce qu'ils ont mis un cache entre l'appli et leur back-end, je sais plus comment qui s'appelle, le cache c'est un truc connu, pour gérer la charge.
Mais la database c'est Mongo, donc on est bien.
Pardon. On est bien. Et donc ils ont mis un cache, je me rappelle plus. Et comme le cache, tu payes, comme tout le monde, mais tu payes à l'utilisation. L'utilisation, elle se fait par client unique. Les clients uniques sont référencés par IP. Donc c'est ce que j'en ai compris là des derniers retournements, puisqu'il y a Julien Dubois.
Alors j'ai pas mis tous les articles parce que il y en avait vraiment pas mal, mais effectivement Julien avait relevé un problème là-dessus. En fait l'article que j'ai choisi, il a été écrit par le dirigeant d'une société d'audit de sécu, et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est quelqu'un qui a défendu sa thèse à l'INRIA Paris en 2018. Donc c'est quelqu'un qu'on peut pas reprocher d'être anti-INRIA, hein. Et qui en plus est tout à fait compétent justement sur les problématiques de sécurité, de cryptographie, etc. Et donc lui, il fait une liste des différents soucis techniques qu'il a relevés, parmi lesquels cette histoire d'IP. Et en fait, le problème qui le dérange profondément, c'est que au-delà du fait de ne pas avoir de réponse technique correcte, il y a des cas où l'équipe se cache derrière. Oui, mais on a suivi les recommandations de la CNIL. On est compliant, enfin on respecte les recommandations de la CNIL, donc c'est bon. Ben non, c'est pas bon, parce qu'en fait vous avez décidé de vous-même que c'était la bonne solution, mais vous ne la présentez pas et vous expliquez pas pourquoi, et il y a pas moyen d'en débattre. Donc non. Effectivement le problème crucial, et en plus c'est là où ça marche pas même pour la CNIL, c'est qu'on n'a pas de garantie sur l'effacement des données pseudonymisées enregistrées. Voilà.
Voilà. Donc, c'est pas fini. Alors, a priori, c'est un flop. Où c'est que j'ai lu un article là où il remettait un peu en question justement donc les chiffres d'installation, mais a priori, ça reste un flop comme attendu. Enfin voilà, tout le monde, personne l'installe, tout le monde s'en fout. Donc voilà.
C'est marrant parce que finalement, l'alliance Google-Apple, c'était eux qui proposaient le truc le plus sécurisant en termes de.
C'est ça.
Enfin,
pour une fois, ils ont fait quelque chose de bien.
Ouais, c'est vrai.
Et non seulement ça, mais parce qu'en plus, dans les problèmes que rencontre l'appli, c'est que elle est pas censée géolocaliser, mais en fait, quand tu la démarres sur Android, elle demande l'accès à l'API géolocalisation, parce qu'en fait, le Bluetooth et la géoloc sont liés. Et en plus, tu vois, ils ont voulu défendre, c'est un petit peu la tendance là ces derniers temps, de dire on va défendre du Made in France, etc. Et au final, ils prennent l'API Catcher. Ils sont pas hyper cohérents.
Non, mais il y a beaucoup de soucis, et puis après les problèmes restent surtout fonctionnels, puisque c'est une appli française, franco-française en France, donc avec tous les étrangers qui veulent venir passer leurs vacances en France, ça veut dire que pour que ça soit efficace, faudrait que les étrangers installent Stop Covid, qui d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle soit en multilangue, mais il faudrait qu'ils installent via leur store Stop
Covid. Je ne sais pas si elle est en multilangue, mais quand elle a été lancée, à la place des conditions générales d'utilisation, il y avait un Lorem Ipsum.
C'est pour ça peut-être que en fait, si tout est Lorem Ipsum, ça peut-être vite. Mais voilà. Non, mais voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes derrière, sans parler des problèmes de coûts, les coûts de maintenance qui sont estimés à je sais plus combien de centaines de milliers d'euros par mois, etc.
300 000 euros par mois, je crois.
Voilà, donc beaucoup de bruit et malheureusement de choses qui à suivre sur cet appui Stop Covid, qui malgré je pense des personnes qui ont fait des efforts et tout, c'est pas fait comme il faut et voilà. Et on, une fois de plus, on met pas en avant les talents français et on les utilise pas à bon escient. Et donc transition sur, on reste sur la santé et sur les talents français, de l'hébergement de nos données, du carnet de santé numérique, c'est ça, c'est le...
C'est le déploiement de la plateforme nationale des données de santé, donc voilà. Qui est un guichet unique d'accès à l'ensemble des données de santé. Ça doit permettre de développer l'intelligence artificielle.
Partagé par les hôpitaux, etc. Voilà.
Voilà. Hôpitaux, pharmacies, données de recherche, etc. Voilà. Donc la quantité de données est quand même assez énorme. Moi, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout dans ce projet, c'est qu'il est prévu que c'est censé être un projet de recherche d'intérêt public auquel les startups, mais également les assureurs, pourraient avoir accès. On sent bien toutes les dérives qui peuvent arriver derrière. Et puis, en fait, l'interop qui donc est une collectif de professionnels du milieu hospitalier dénonce le fait que l'État a poussé Microsoft pour l'utilisation de ces données contre l'avis de nombreux acteurs et que c'est d'autant plus dangereux qu'il y a le fameux Cloud Act qui est en service aux États-Unis depuis 2018 et qui donc permet à la justice américaine d'avoir accès à toute donnée qui est stockée même si c'est dans des pays tiers, même si c'est pas sur le territoire américain, à partir du moment où c'est stocké par des sociétés américaines, ils peuvent y avoir accès. Tout va bien. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal maintenant? Je vois pas.
Il y a pas de souci. Il y a eu pas mal de bruit autour de ce sujet-là. Il y a eu OVH.
Il y a eu notamment OVH d'autres. Qui a Octave Klaba forcément. Et enfin, c'est légitime. S'est fait entendre en disant mais c'est n'importe quoi. Vous faites même pas appel aux acteurs européens. Vous faites pas confiance aux acteurs de l'écosystème. Vous suivez le lobbying de Microsoft.
Surtout avec la mauvaise excuse, parce que les tweets, les communications qui avaient été faites, c'est le choix de Microsoft pour des raisons de compétences et de scalabilité, etc. C'était en gros, non, mais nous en France, on sait pas faire. Ah, donc là, obligatoirement, Octave et pas que, parce que Quentin aussi, etc. Enfin, les acteurs français qui font de la prod, leur son sont tombés sur le dos. Et donc, ils ont des réunions. Je crois que Quentin en avait une cette semaine, la semaine dernière. Octave aussi a eu une réunion pour faire le point avec. Mais c'est vrai que voilà, il y a un problème sur la transparence des appels d'offres, sur la problématique de privilégier ou de moins d'estimer à juste prix l'investissement qui pourrait être fait sur les entreprises françaises. Alors peut-être qu'elles sont peut-être pas toutes prêtes, peut-être Octave l'a admis, il a fait tout un thread sur Twitter où il disait bon, il y a des trucs.
Ouais, mais si tu les soutiens jamais.
Mais voilà, c'est le problème, c'est que on s'attend à avoir un truc tout prêt, on est prêt à payer très cher un truc qui est tout prêt mais qui est pas de chez nous. Au lieu de se dire peut-être qu'on mettrait le même argent dans un acteur local, lui pourrait peut-être être prêt. Effectivement, c'était une question de temps.
D'un autre côté, pressé. On faisait des trucs. Allez, on va lancer le cloud souverain.
Et t'as la même volonté au niveau européen. Ils veulent voir émerger des acteurs du cloud européen, etc. Avoir une vraie dominance des solutions européennes fiables, etc. Mais ils les encouragent pas. Donc, si tu les encourages pas, ça risque pas de marcher, hein.
Et ouais.
Donc il faut continuer à concurrencer Microsoft, Google et autres, AWS, mais voilà, faut qu'il y ait de la concurrence, faut qu'il y ait de la concurrence locale et qu'on puisse mettre ça.
Et puis surtout, faut sur des choses aussi sensibles que les données de santé des Européens, peut-être réfléchir à deux fois à ce qu'on fait quand même.
J'avoue que ça fait très peur.
Je propose, c'est naïf de ma part, mais je propose, je ne sais pas. Voilà. J'ai fini. Voilà. Vous êtes bien déprimé.
Et bah, encore plein de belles nouvelles.
Pas, hein.
Non, on te remercie pas, c'est ça, c'est bon, on va repartir déprimé. On va quand même terminer alors bon avec les conférences. Alors c'est compliqué hein.
Mais non, c'est elles sont toutes annulées, laisse béton.
C'est très compliqué. donc effectivement, on a reçu l'annonce de l'annulation de DevOps Belgique hein, qui était prévue en novembre est annulée aussi. Par contre, il y en a qui de cette année de 2020 oui 2021 je sais pas. Donc DevOps Belgique a été annulé. Par contre, il y a le Hack Comic Push virtuel qui aura lieu le 27 juin donc dans quelques jours, semaines, je ne sais plus. Qui est donc un hack. Ouais, c'est ça qui est un alors, on va dire c'est la version longue des Hacker Carton. Et donc il y a un crowdcast pour nous présenter cet événement.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Agathe Vess et je suis développeuse back-end chez Oui SNCF. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous présenter un événement encore tout récent, puisque la première édition a eu lieu l'année dernière. Il s'agit du Hack Commit Push, et il aura lieu le 27 juin 2020, de 9h à 15h30. Cette année, l'édition sera virtuelle, alors c'est l'occasion d'y participer depuis chez vous. Tout comme le meet-up HackerGarten, l'objectif est de réunir des personnes souhaitant contribuer à des projets open source et de proposer un accompagnement pour une première contribution. Ou pas d'ailleurs, car cet événement est ouvert à toutes et à tous, que vous soyez développeur débutant ou chevronné, que vous contribuiez régulièrement ou pour la première fois, nous aurons un projet à vous proposer. Certains projets confirmés pour cette année sont bien connus, comme Maven ou Groovy, mais il y aura également des projets plus confidentiels qui seront mis en avant. La liste des projets est toujours ouverte et elle s'allongera d'ici le 27 juin. Alors si vous avez des idées à nous soumettre ou si vous êtes porteur d'un projet à la recherche de contributeurs motivés, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure et participer à la construction de projets open source, les inscriptions sont ouvertes et nous vous attendons sur le site paris2020.hack-commit-pu.sh. Vous pouvez également suivre sur Twitter le compte HackCommitPush en minuscules et sans ponctuation. Alors j'espère que nous serons nombreux et nombreuses le samedi 27 juin pour faire grandir ensemble l'open source. À bientôt.
Merci Agathe. Et donc pour les autres conférences, bah effectivement je crois qu'on va passer parce que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est décalé.
Non, en fait, il y a quand même... Le Jog Summer Camp a annoncé qu'il maintenait la conférence pour le moment au septembre 2020. Le CFP est ouvert jusqu'au 3 juillet. Vous avez le DevOps D-Day le 9 octobre 2020 à Marseille. Le CFP est ouvert jusqu'au 15 juin. Frontside le 15 octobre 2020. DevFest Nantes les 15 et 16 octobre 2020. Volcamp IO, aux mêmes dates, mais à Clermont-Ferrand. Le CFP est ouvert jusqu'au 21 juin.
C'est leur premier événement, je crois. C'est la toute première, donc si vous avez possibilité...
Faut les encourager, hein. Faut y aller.
Ouais. Essayez d'y aller, franchement, enfin... voilà,
c'est important, faut les encourager. Ouais, surtout, c'est pas facile pour eux. Enfin, ça fait un moment qu'ils avaient envie de se lancer. Voilà, coup, ils décident de se lancer, il y a ça qui leur tombe sur la figure.
C'est ça, franchement, si vous pouvez les aider...
Voilà, si c'est pas cette année, ce sera l'an prochain, mais c'est décidé, Volcamp IO sera. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis DevFest Toulouse les 5 et 6 novembre 2020 et Flocon les 9 et 10 novembre 2020. Voilà. Donc ce sont des conférences beaucoup plus petites, donc normalement elles peuvent être maintenues.
Ça devrait passer.
On espère, on va croiser les doigts et dans tous les cas, eh ben vous pouvez soumettre au CFP en espérant que ça aura lieu.
Ils sont ouverts, tout à fait. Donc voilà, donc bon courage à eux. On espère que tout va bien se passer d'ici là et qu'ils auront beaucoup de monde et de succès et que voilà. Donc profitez bien de ces événements.
Enfin, pas trop de monde en vrai, hein, parce que.
Oui, alors du monde mais sans trop. Du monde mais éloigné, hein. Voilà, c'est ça. Il faut des grandes pièces avec peu de monde. Voilà. Bon bah voilà, on a tout fait finalement, on est en dessous des 2 heures, t'as vu, on a réussi Audrey. C'est bien, on avait dit qu'on ferait court, hein. C'est comme d'habitude. Bon, on a essayé, on a tenu. Bon bah merci à tous en tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci Audrey, merci Guillaume.
Ouais, merci.
Merci Arnaud pour ce lead de qualité.
C'était bien. Oh là là. Quel effort.
Si, vu ce que t'as dormi, c'est un bel effort.
Passez une bonne journée et gros bisous à tous. Enfin, de loin, hein, virtuel et tout ça.
Check du coude, hein.
Ouais, check du coude. Ça marche. Allez, au revoir.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.